lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Then we're heading into Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside of Sebastian Vettel. Has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away from Vettel and Jensen Button. For the rest of it, challenging Sebastian Vettel now as we find a fourth down the rest of the puffer towards the speedo delano. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée cette semaine au Grand Prix de Corée à Yeongam, au bord de la mer, dans les marais, enfin nulle part en fait, il y a rien. Je crois que je le dis tous les ans ça sur le Grand Prix de Corée qu'il y a rien, mais en même temps il y a jamais rien, n'est-ce pas Dino?
Yes, good evening Shinji, good evening Mr. Nurse. Yes, tonight I speak English because we continue to travel around the world.
Oui,
and tonight
yes.
We are traveling with a special guest, which is at the moment oui. He's in England.
Oui.
He's in stage in England.
Donc quand vous dites autour du monde, c'est juste au Royaume-Uni quand même.
Hein. And of course, he gonna change all the SAV de la F1 because you will be in majority, Shinji. He is a Raikkonen fan. Because it is Iceman Air. Good evening, Iceman Air.
Good evening, everyone.
Donc c'est Iceman Air, hein, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais.
Voilà.
Voilà. Qui ne comprendraient pas mon anglais. Nous allons donc faire l'émission ce soir avec Iceman Air, qui est fan, comme son nom l'indique, de Sébastien Vettel.
Mais tout à fait, oui.
Alors messieurs, qu'avez-vous pensé de la course de Corée?
Laquelle, Shinji? La course de Formule 1 ou la course de 4x4?
La course de F1. Ah,
la course de F1 était passionnante.
Était bien.
La course de 4x4 a été un peu courte à mon avis.
Ah, ce 4x4. J'ai adoré l'explication de Whiting. Parce que à la fois elle paraît basique et en fait c'est propre au circuit de Corée.
C'est bien foireux surtout.
Je sais pas si vous avez vu ça ou enfin on en reparlera je pense donc.
Non mais sinon bah, c'était une course en fait moitié-moitié, première moitié pas réellement chiante mais pas non plus extraordinaire et seconde moitié de course là vraiment intéressante quoi.
Vas-y, Shinji, vas-y.
Non, ouais,
Non, mais vas-y,
non,
Shinji.
Non, je serais pas mythique, mais raison, je trouve que...
Non, Shinji, c'est... vas-y.
Quoi?
Non, on sait que t'en meurs d'envie, cherche pas à me meubler, vas-y,
c'est...
passe à l'éphéméride, vas-y, allez, Shinji, quel jour on était?
Bon,
allez.
Eh bien, puisqu'on me réclame à corps et à cri, hein,
non,
vous voyez.
Non, je réclame pas, mais je sens que t'as envie d'y venir, vas-y, lâche-toi.
Donc, ce dimanche, nous étions le 6 octobre, et il s'est placé plein de choses le 6 octobre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Messieurs, le chiffre de la semaine, le nombre, parce que c'est un nombre.
Oui.
C'est toute la subtilité du truc, c'est le chiffre, mais en fait c'est un nombre. Le nombre est 281.
Est-ce que c'est... Il y a une unité? On va faire les classiques.
Non.
C'est un nombre de choses.
Enfin,
c'est
oui, on peut dire un nombre de choses.
C'est quantifiable.
Oui.
C'est un objet, quelque chose de fabriqué?
Non.
C'est créé par l'homme?
D'une certaine façon, ça peut être créé par l'homme. Mais ça n'est pas manufacturé.
C'est transformé? À partir de quelque chose qui existe déjà dans la nature?
C'est pas quelque chose de tangible.
C'est
Là, depuis que Fab nous a sorti ce mot-là, on sait toujours pas ce que ça veut dire tangible.
Soyons clairs. C'est quelque chose qui existe actuellement?
Oui.
Ah, il se fout un peu de gueule, Iceman. Moi, je serais vexé.
Non,
il se fout un petit peu de moi.
Oui, mais moi, j'ai la réponse, c'est normal. Quand vous connaîtrez la réponse, vous direz, ah oui, c'est con comme question.
Donc, 280, c'est 281 une fois la même chose.
Oui, alors, c'est pas 281 choses identiques, mais c'est 281 fois, le même genre de choses.
C'est-à-dire qu'il y a cette chose-là, elle existe en 280 exemplaires, actuellement?
Oh, elle existe en bien plus que ça.
Alors pourquoi tu dis
281? Mais t'en as retenu que 281.
Bah pour l'événement qui nous concerne,
d'accord.
Il y en avait 281.
Donc c'est il y en avait 281 pour un événement précis. Ils étaient tous réunis le même jour. Même si c'est pas tangible.
Probablement oui le même jour.
Pour la même occasion.
Oui pour la, oui.
C'est un événement qui a eu lieu récemment?
Non.
C'est lié à un événement sportif?
Non.
Un événement politique?
Non.
Un événement cinématographique?
Ah oui.
C'est un nombre de salles?
Pas un nombre de salles.
Un nombre de spectateurs.
Non.
C'est le nombre de spectateurs qu'il y avait à la première de Rush aux États-Unis. 281. Donc c'est lié à un film.
Un film sorti cette année?
Pas du tout.
C'est un nombre de plans?
Non.
Un nombre d'images?
Non.
C'est un film... Donc c'est lié à un film de cinéma, c'est ça?
Oui.
Ce sont des personnages?
Pas des personnages.
Sur l'équipe qui a réalisé le film?
Non.
C'est un film qui est sorti après 1950?
Ah non.
Avant 1950?
Avant 1950.
Un film muet?
Non.
Est-ce que c'est un nombre de films?
Ce n'est pas un nombre de films.
Ça se rapproche, apparemment.
Oui.
C'est un nombre de scènes?
Ce n'est pas un nombre de scènes.
Un nombre de représentations?
Non plus.
Un nombre de chapitres?
Non.
Un nombre de mots?
Oui.
C'est le nombre de mots dans le premier film parlant?
Oui.
Oh, joli.
Alors là, bravo.
Je dois dire merci à Ismaël qui a quand même bien guidé.
Oui, parce que c'est pour ça que quand t'as parlé d'un film muet, j'ai un peu hésité. Parce que...
Oui, 280 mots, c'est à moitié muet, quoi.
Ouais.
Eh ben, 281 mots, ça représente 2 minutes sur 90 minutes de film.
Oh la vache.
Et c'est quoi?
Est-ce que toi, Dino, qui est peut-être un peu cinéphile, est-ce que tu sais quel est le long métrage qui est considéré comme le premier film parlant?
Non, sincèrement, non. Ça doit être 1928 ou 1930.
Alors,
mais,
t'es bien au niveau des dates. En même temps, quand t'as vu The Artist, ça aide.
Oui.
C'est Le Chanteur de Jazz qui est sorti le 6 octobre 1927. Voilà, donc, qui est considéré comme le premier long métrage parlant, avec des scènes chantées. Il y a même plus de scènes chantées que de scènes parlées, hein, avec quelques dialogues. Alors, c'est un film de la Warner Bros. À l'époque où il y avait vraiment des frères Warner, hein, pour dire à quel point ça date. Et alors, ça raconte l'histoire, d'un chanteur de jazz, en fait, qui est partagé entre son goût pour le jazz et il veut faire carrière dans le jazz. Et notamment la pression de son père, parce qu'il est chantre dans une synagogue et qu'il voudrait que son fils, au lieu d'aller dans des boîtes de jazz, il chante dans des synagogues. Ça.
D'accord.
Voilà, c'est à peu près le ouais. Pitch du film.
Je tiens à m'excuser pour tout ce que j'ai dit sur le scénario du film Rush. voilà, je pense que en fait c'est un film dont le scénario est très complexe et avec plein de profondeur et voilà, vraiment rien à dire.
C'est tiré d'une pièce de théâtre à l'origine.
Ah bah d'accord, ça explique.
Oui. Et donc ce premier film parlant ne contenait que 281 mots, qui n'étaient d'ailleurs même pas prévus à l'origine, c'est-à-dire qu'il était prévu que le film soit quand même musical, qui était déjà pas mal pour l'époque, et c'est l'acteur principal Al Jolson qui, lors d'une scène, en fait, a interrompu sa chanson en mettant des dialogues. Il a improvisé ses dialogues et ils ont gardé la scène dans la version finale, ce qui fait de lui le premier long métrage parlé.
Ah, donc du coup tu comptes pas les paroles de la chanson dans les 200
mots? Ah non, c'est vraiment voilà, c'est les mots voilà, les mots du dialogue.
D'accord.
Et est-ce que c'était Baz Luhrmann le réalisateur?
Non, c'était Alan Crossland. Ah. Me demande pas ce qu'il a fait d'autre, je sais pas.
C'est con parce qu'on aurait été en direct, ça aurait fait un beau four.
Voilà. Donc film référence. Et est-ce que vous savez quelle est la première phrase parlée qu'on entend justement?
C'est pas je parle ou un truc dans genre.
Alors c'est un peu dans ce genre d'idée. Donc c'est en anglais, c'est wait a minute, you ain't heard nothing yet. C'est-à-dire attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu.
Ouais.
Et donc voilà, les parties parlées, ça ne représente que 2 minutes sur 90 minutes de film. Donc c'est quand même encore globalement un film muet. Hein. Oui.
Oui.
Et alors ça a été quand même un très gros succès, puisque alors en termes de budget, alors c'est des dollars de l'époque, hein, il a coûté environ 450 000 dollars à faire, ce qui était beaucoup apparemment pour la Warner qui habituellement ne mettait rarement plus de 250 000 dollars dans ses films.
Je sais même pas si tu fais une pub avec ça aujourd'hui.
Alors, la conversion en dollars de 2005, ça fait environ 5 millions de dollars. Ce qui est pas grand chose par rapport à un film triple A aujourd'hui, on est bien d'accord.
Ouais.
Et donc, par rapport à ces 400 000 dollars de mise, il a rapporté quand même plus de 6 millions et demi de dollars de l'époque. Donc il a plus de 10 fois quand même rapporté son coût.
1000% de bénéfices, et voilà.
Et c'était un vrai pari, hein, parce que justement, même les producteurs, au début, ils pensaient pas forcément mettre des scènes parlées, parce qu'ils se disaient, à quoi ça sert de mettre des gens qui parlent dans les films, voyons. Pourquoi les gens seraient intéressés à entendre les gens parler? Eh ben oui, ça a été un carton et l'histoire du cinéma et ce qu'on voit par exemple dans The Artist a complètement changé finalement. C'est une des plus grandes.
C'est vrai que The Artist le retrace
oui,
très bien.
C'est exactement cette époque-là et c'est exactement ce dont ça parle.
Et même ce changement au niveau des comédiens, on n'est plus du tout dans le même
oui.
jeu. Enfin, le personnage qui est joué par Jean Dujardin est une star oui. du muet. Sauf que dans le muet, on est plus dans la caricature,
dans
l'exagération des gestes.
Il n'y a pas de parole, il faut faire transmettre par le visage beaucoup plus les expressions.
Et donc c'est un tout autre travail de comédien, c'est une révolution pour le métier de comédien.
Et on le voit aussi, parce que je vois sur la page Wikipédia, on le voit aussi dans le film est évidemment référencé dans plein d'autres films, puisque c'est quand même un film novateur, et notamment dans Aviator de Scorsese. Et apparemment dans le film on voit Howard Hughes donc qui fait venir quelqu'un dans une salle de cinéma où est projeté le chanteur de jazz et il dit c'est ça que les gens veulent maintenant, le muet ne vaut plus rien. Et il avait pas tort. Bravo Dino.
Ouais, c'est vrai. Bah écoute, j'ai envie de dire c'est un succès collectif, c'est le succès d'une équipe. Fan de Kimi Raikkonen, fan
merci.
De Fernando Alonso, c'est annonciateur d'une saison 2014.
Je n'aurais pas lui dit.
C'est peu de le dire.
Et alors en F1, le 6 octobre, eh bien c'est une riche journée, riche dans le sens où il s'est passé beaucoup de choses.
Alors j'ai regardé Formula 1, j'ai une réponse.
Ah oui, moi aussi.
C'est le premier titre à la Prost. En 85.
Oui, en effet, Grand Prix d'Europe 1985, le premier titre d'Alain Prost. Ce Grand Prix-là est aussi la première victoire de Nigel Mansell, c'est pas rien, et le dernier Grand Prix de John Watson.
Qui est pas rien non plus.
On peut aussi parler du Grand Prix des États-Unis 74. Là encore, fin de saison, où Emerson Fittipaldi gagne son deuxième titre, et c'est donc aussi le premier titre constructeur de McLaren.
Et pilote aussi, non?
Il roulait pour McLaren en tant que pilote.
D'ailleurs, je conseille sincèrement la vidéo Tund consacrée à Fittipaldi, qui est sans doute l'une des meilleures sur le personnage
oui,
de Fittipaldi, qui est extrêmement drôle. Je trouve que celle de Hunt est un peu plus
ouais,
attendue.
Elle est plus classique.
Celle de Prost qui est sortie ce week-end est
moyenne,
clairement
ouais,
décevante. voilà. Mais celle de Fittipaldi est absolument exceptionnelle.
Sinon, au niveau des naissances et des décès, le 6 octobre 1944 naissait Carlos Pache,
qui a donné son nom
au circuit d'Interlagos, qui a gagné une victoire en Grand Prix. C'était justement le Grand Prix
c'était
du
Brésil,
75, tout à fait, qui a roulé pour Brabham, Surtees et March.
Malheureusement. Il est mort ou pas?
Oui, il est décédé justement dans un accident d'avion, et c'est, je crois, justement suite à son décès qu'ils ont donné son nom au circuit.
D'accord.
Accessoirement, il y a aussi Manfred Winkelhock. Donc, peut-être nous, notre génération, on le connaît peut-être mieux pour être le père du fameux Marcus Winkelhock. Vous savez, l'homme qui a mis une Spyker en tête d'un grand prix.
J'adore son lose de Gilles. Vous voyez, le mec, le seul moyen qu'on le connaît vraiment aujourd'hui, c'est parce que son fils, il a mené 3 tours lors d'un grand prix en Allemagne.
Donc lui aussi, malheureusement, il a quitté assez tôt, hein, parce que...
Il y a eu un accident,
ouais,
lui, je crois.
Lui, accident pendant les 1000 km de Mosport, sur Porsche. Et puis, autre événement tragique, même deux, on peut compter. En 73, Watkins Glen, c'est malheureusement
ah, oui.
le jour où nous a quitté François Sever.
Vers 6 octobre.
Lors des essais.
40 ans, pile poil.
Et aussi, alors ça c'est parce que c'est passé malheureusement le même jour que le premier titre de McLaren, il y a eu un décès aussi en F1 pendant le Grand Prix des États-Unis, comme quoi le Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen ces années-là c'était quand même assez terrible, celui de Helmut Koenig qui a malheureusement pas fait une grande carrière, il a fait que 2 Grands Prix, mais voilà, il est décédé le même jour que malheureusement le titre de Fittipaldi et McLaren.
On en a d'ailleurs parlé dans la
oui,
l'analyse
voilà,
du film Rush. On a parlé des deux incidents qui avaient été un peu mixés pour les bienfaits du film.
Bah voilà, ce sera tout pour l'éphéméride.
C'était un bien bel éphéméride, Shinji. It was a very beautiful éphéméride.
T'as l'intention de tout doubler en anglais?
D'accord. Tout. Everything.
Est-ce que tu peux le faire en 281 mots?
Avec son French accent.
Yes, oui.
Pour toute l'émission.
Yes, he can.
Oui, yes.
Bien, Dino, on va passer à l'heure de gloire, qui fait son retour. Dino?
Ah non, mais j'ai dépassé mon quota, j'étais au 281e mot.
Bah, tu parles en français dans ce cas-là.
Tu
parles
pas tout seul maintenant.
Oui, non, mais.
Donc oui, j'ai dit, on va passer à l'heure de gloire de l'invité. Un invité spécial qui n'était pas venu depuis 2 ans.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Et donc, à Iceman, tu connais le principe, hein,
oui,
j'espère.
Oui, oui.
Tu nous écoutes depuis.
Oui,
deux
oui,
ans.
Je vous écoute quand même.
Donc, le principe, je le rappelle pour tous ceux qui nous découvriraient, l'heure de gloire, on va t'interroger un peu sur les sujets d'actualité du moment. Et on va commencer par le désormais célèbre, pour pas pour, que même Canal Plus nous envie, même s'ils n'osent pas l'avouer, je sais Canal Plus que vous.
Et même sur la Sky, ils en ont parlé l'autre jour, ils ont dit que c'était génial.
Voilà, tu vois, c'est comme quoi un truc de dingue. Donc le pour pas pour, je vais te faire 10 propositions, à chaque fois tu diras si tu es pour ou pas pour, et à la fin tu pourras revenir sur 3 sujets de ton choix plus un sujet un peu obligatoire. Donc okay. Quand tu es prêt, tu me dis je suis prêt et on y va.
Je suis prêt.
Alors pour ou pas pour, le retour de Rubens Barrichello.
Pas pour.
Pour ou pas pour, 22 Grands Prix en 2014.
Pour.
Pour ou pas pour, le V6 Turbo.
Pas pour.
Pour ou pas pour, Pirelli.
Pour.
Pour ou pas pour que Bahreïn accueille des essais privés l'année prochaine ?
Pour.
Pour ou pas pour rester en Corée du Sud encore une quinzaine de jours avant d'aller directement à Boule pour le Grand Prix d'Inde ?
Pas pour.
Pour ou pas pour l'interdiction des taxis pilotes ?
Pas pour.
Pour ou pas pour la prolongation de Jules Bianchi chez Marussia pour la saison prochaine ?
Pour.
Pour ou pas pour le retour de Kimi Raikkonen, Maranello ?
Pour.
Pour ou pas pour, la F1 sur Canal+, Sky ou peu importe la chaîne tant que tu payes.
On va dire pour.
Donc ça nous fait 6 pour 4 pas pour.
Et un petit extra pour toi, je suis pour le Hungaroring.
Oh.
Tu vois, Shinji, hein, tu méprises des fans du Hungaroring.
Non, je ne méprise pas.
Mais les fans, oui, Shinji, on me force pas à dévoiler en plein direct différé tout ce que tu peux dire dans le dos des auditeurs sur le Hungaroring. Tu sais très bien que j'ai l'esprit fertile et je pourrais inventer des choses.
Oui, c'est vrai.
Donc tu peux revenir sur 3 sujets de ton choix. Tu vas pouvoir revenir sur 3 sujets de ton choix. Mais avant tout, on va quand même revenir sur la F1 sur des chaînes payantes. Grande nouveauté de cette saison, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, alors en fait, je suis assez partagé. Donc, d'une part, j'ai quand même, sur le principe même de payer pour pouvoir regarder du sport à la télé, ça... J'ai jamais été pour. Après, force est de constater que la retransmission Canal est quand même d'un meilleur niveau que ce que faisait TF1. J'ai entendu, depuis que je vous écoute, j'ai trouvé que c'était assez partagé en fait, que pas mal de gens semblaient déçus, enfin entre guillemets déçus. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas ce qu'on peut faire de mieux, mais bon, je trouve qu'ils se débrouillent quand même pas si mal. Déjà rien que le fait de pas avoir de pub dans les Grands Prix, tout le monde l'a souligné, mais bon, c'est vrai que c'est quand même agréable. Au niveau des commentateurs, moi j'aime bien Julien Febvreau. Je trouve que il a un regard assez neuf. Bon, encore peut-être encore un peu jeune parce que il a pas encore trop l'habitude, mais j'apprécie ce qu'il dit en général. Sur Villeneuve, bon bah c'est Villeneuve quoi. Il y a faut en prendre et faut en jeter quoi, mais globalement je trouve qu'il est pas si mauvais, enfin qu'il serait même plutôt bon. Je l'avais pas mal apprécié sur les premières courses, ensuite il s'est mis un peu à devenir le Villeneuve qu'on connaît, à un peu ouvrir sa gueule
notamment
à travers,
vous savez. Bon.
Voilà, en fait, il franchement, de temps en temps, il a vraiment des choses qui sont vraiment sensées. Ce que j'aime bien, justement, c'est qu'il a quand même un franc-parler. Il n'hésite pas à dire, quand il est contre quelque chose, il le dit ouvertement et de manière assez assez crue parfois, entre guillemets, et ça, j'apprécie. Après, c'est vrai qu'il a quand même fortement tendance à tirer des jugements très, très vite. Et bon, là, c'est un petit peu excessif. Après, sinon en dehors de ça, bah déjà rien que le fait bon de pouvoir suivre tous les grands prix, que ce soit à 4h du mat, à 14h ou à 20h, on est sûr de pouvoir voir le grand prix avec un avant-course quand même assez conséquent, et pas juste un petit quart d'heure vite fait histoire de présenter la grille de départ.
C'est vrai qu'à titre d'exemple, là par exemple en Corée, il y avait quand même une avant-course d'une heure. Voilà, en Corée, à 7h du mat, quoi.
Alors après, donc moi, personnellement, j'ai pas Canal+, mais j'arrive à suivre par des moyens des
c'est le seul mec qui va chercher Canal+, en streaming.
Alors en fait, ça dépend. J'arrive pas à l'avoir, ça dépend des courses, des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Donc quand j'arrive pas, bah, j'atterris sur la Sky, hein, parce que là, on est sûr de la trouver tout le temps. Du coup, j'en étais... Oui, bah, j'aime beaucoup aussi les interventions de Montagny, donc ça, j'apprécie beaucoup. Il dit vraiment toujours des choses super intéressantes, notamment sur la grille et tous les petits détails techniques qu'il nous présente sur les voitures. Je trouve ça vraiment super sympa.
J'aime son combat de titan contre les ingénieurs de Red Bull.
Ouais, ouais, c'est
chaque
vrai
semaine.
C'est assez drôle, justement. Mais même quand il est pendant la course, en général, c'est vraiment... Enfin, il n'y a jamais rien de superflu, quoi. Donc c'est vraiment très sympa. Ensuite sur le reste, bon, l'émission du dimanche soir Formula One, c'est vrai qu'au début c'était vraiment plus pour ceux qui n'avaient pas vu le Grand Prix. Je trouve que depuis quelques temps ils essayent un peu de faire de l'analyse, ce qui est quand même sympa. Et j'aime beaucoup par contre les spécialistes F1, je trouve que c'est vraiment une bonne émission. Surtout depuis qu'ils sont redescendus à 4, c'est vrai qu'au début quand ils étaient un peu 6, c'était un peu le bazar. Des fois ils parlaient tous en même temps, on comprenait pas trop. Mais donc globalement ouais, je trouve que c'est quand même positif, mais bon, le gros point noir c'est qu'il faut payer quoi.
Donc du coup, tu as le droit de revenir sur 3 sujets de ton choix maintenant.
Alors trois sujets alors premier truc, je vais revenir sur les V6 turbo.
Donc tu n'es pas pour.
Ouais, alors en fait, c'est un pas pour à nuancer, mais il y a une raison surtout qui me fait dire pas pour, c'est le bruit. En fait, j'avais jamais entendu le bruit du V6 jusqu'à récemment, et il y a quelques semaines de ça, je savais que Mercedes ou Renault, je sais plus, ou peut-être les deux, avaient sorti une vidéo avec le bruit, mais je l'avais jamais écouté, et je décide d'écouter l'autre jour, et franchement, c'est pas possible.
C'est en plus ça, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas vraiment juger parce que t'as le Renault qui est apparemment, si tout nous dit Gus Gus, c'est qu'ils ont un petit peu trafiqué un peu le son. Et du côté de chez Mercedes, alors là c'est clairement le banc d'essai, et donc du coup on a toute la réverb qu'il y a avec, et le son est pas très agréable à écouter.
Enfin, en tout cas de ce que j'ai entendu, j'ai pas du tout aimé, un espèce de bruit rauque métallique grave, enfin un bruit de V6 quoi. C'est pas que j'aime pas le bruit du V6, mais pour une F1 Alors je trouve que ça colle absolument pas à une F1. Après, je pense que c'est comme tout, on finira par s'habituer. Hein.
Il faudra d'ailleurs après... suivre le prochain Formula One, je crois, parce que il y aura la comparaison entre le V6 et le V8 sur le plateau. Voilà. Donc on ne sait pas s'il y aura déjà, mais en tout cas, il y aura les deux blocs moteurs.
Moi, j'ai toujours été nostalgique du V10. Je trouve que c'était toujours les meilleurs bruits qu'on pouvait avoir en F1. J'ai revu quelques vidéos récemment avec un V10 et c'est vraiment magnifique. J'étais déjà un peu déçu quand on passait au V8, même si le V8 reste quand même très agréable à entendre. Le V6. Après, sur le V6 en lui-même, je suis pas forcément contre. Je trouve que ça peut, au moins, ça le mérite de représenter un défi pour les motoristes, parce que les moteurs avaient quand même perdu beaucoup de leur importance ces dernières saisons. Donc ça, c'est quand même un point positif. Ensuite, le fait que le retour des turbos, je trouve que, enfin, moi personnellement, j'ai jamais connu la F1 avec les turbos, mais même sans ça, je pense que c'est aussi un challenge intéressant. Puis bon, faut quand même un peu se moderniser avec les nouvelles technologies. Après tout le système de récupération, tout ça, bon, faudra voir ce que ça va donner. Là où je suis pas très convaincu, c'est que ça va quand même beaucoup alourdir les voitures, notamment ce qu'on a vu ces dernières semaines, peut-être même au détriment de certains pilotes. Donc ça, je trouve que c'est franchement pas terrible.
Il y a Jenson Button qui a dit que lui, il aimerait bien remanger.
Ouais,
parce
voilà.
Que déjà, il est à la limite. Pourtant, Jenson Button, c'est un triathlète, mais il est par sa taille, il est à la limite. Il y a notamment je pense le cas le plus symptomatique, c'est Hülkenberg,
n'est
pas sûr d'avoir un volant l'année prochaine, et dont la taille fait qu'il est potentiellement, il peut éventuellement ne pas être sur les grilles de départ l'année prochaine à cause de ça, pas à cause du talent, mais à cause de la taille.
Donc le poids, à la limite, je vais peut-être y revenir un peu plus tard, donc j'en dirai pas trop pour l'instant. Et sinon, donc voilà, les V6, donc on va dire c'est quand même globalement pas 50-50 quoi, moitié pour, mais le bruit c'est vraiment pour moi le gros point noir en tout cas pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre pour comme ça? Ah oui, Pirelli. Pirelli aussi, j'aimerais bien revenir dessus parce que je trouve que c'est depuis le début de l'année, ça m'énerve toutes les équipes, tout le monde qui se met à taper sur la tête de Pirelli, alors que Pirelli, bah ils font simplement ce qu'on leur a demandé de faire. Tout le monde, j'ai l'impression que les équipes ont un peu oublié que il y a 3 ans ou 4 ans avec les Bridgestone, tout le monde se faisait entre guillemets chier parce qu'on avait qu'un seul arrêt par course, et encore parce qu'ils étaient obligés, sinon les pneus pouvaient être capables de faire tout le Grand Prix. Donc c'est quand même les équipes et la FIA, tout le monde qui a demandé à Pirelli justement de faire des pneus beaucoup plus pour avoir des grands prix plus spectaculaires. Et alors peut-être qu'ils ont poussé le concept à l'extrême, mais bon, à la base c'est quand même de leur faute, enfin de la faute aux équipes et à la FIA. Donc je trouve ça un peu ingrat de derrière venir leur faire des reproches. Donc voilà, ça m'a toujours un peu énervé, particulièrement donc c'était Red Bull et je sais plus quelle autre équipe, je crois qu'il y a Mercedes, oui, qu'on tout fait pour qu'on change les pneus. Bon, alors avec ce qui s'est passé à Silverstone, c'est vrai que c'était peut-être utile de faire des changements. Et donc voilà, je trouve que les équipes, bah, la situation d'aujourd'hui, c'est elles peuvent s'en prendre qu'elles-mêmes entre guillemets et la FIA, puisque c'est quand même eux qui l'ont créé. Et surtout, ça contribue quand même à faire une très mauvaise pub pour Pirelli, qui entre guillemets, eux, ils y sont pour rien. On leur dit voilà, on veut des pneus qui durent 15-20 tours. Eux l'ont fait, mais c'est pas parce que les pneus durent 15-20 tours qu'ils sont pas capables de faire des bons pneus. Je pense que ils sont très très capables de faire des très bons pneus. Donc voilà, je trouve que c'est mal les remercier du service qui rend à F1, parce qu'on est quand même tous bien contents d'avoir eu, je pense que le regain de spectacle quand même cette dernière saison est quand même pas mal du pneu, et bon, tout le monde est très content de ça, donc faudrait un petit peu arrêter de tirer sur l'ambulance. Je pense que c'est juste le bon prétexte pour certaines équipes, en tout cas notamment réduire les Mercedes au début de l'année qui n'arrivaient pas à faire fonctionner les pneus comme étaient capables de le faire Lotus ou Ferrari.
Et d'ailleurs, Pirelli, par la voix de Paul Embury ce week-end, s'est encore un petit peu énervé et a notamment répondu à Alonso qu'il y avait qu'à voir les autres qui arrivaient très bien à faire aussi le travail avec les pneus et qui s'est aussi un peu énervé d'entendre toujours des critiques en rappelant que bah voilà, ils ne faisaient que ce qu'on leur demandait de faire.
Mais il a totalement raison. C'est ça que j'aime bien aussi de ce que dit Embury, c'est qu'il se laisse pas faire. Il a quand même poussé quelques coups de gueule entre guillemets depuis le début de l'année. Donc je trouve qu'il a totalement raison. Et honnêtement, je pense que les équipes peuvent s'estimer heureuses qu'ils acceptent encore de fournir la F1, parce qu'on les a quand même fait poireauter très très longtemps avant de signer leur contrat. Ils se prennent des critiques enfin ils n'arrêtent pas de se prendre des critiques ces derniers temps. Donc je pense qu'il y a plus d'un manufacturier qui a leur place répartie. Et je pense qu'ils peuvent quand même s'estimer heureux que Pirelli accepte encore de... Enfin, ils re-signent, a priori, je crois qu'ils ont signé pour 5 ans. Donc je trouve que Pirelli est quand même bien sympa.
On sait pas encore vraiment pour ce qu'ils ont...
C'est assez fou.
C'est une transition de 5 ans.
Mais c'est vrai, t'as raison, quand tu dis qu'ils ont signé, ils critiquent, mais ils ont bien re-signé les accords commerciaux avec Pirelli. Si vraiment ils n'en voulaient plus, ils pouvaient faire tout à fait le forcing pour virer
Pirelli. Après ça, il y a aussi Paul Embury qui a souligné ce week-end qu'il fallait que les équipes arrêtent de vouloir chercher leur petit intérêt. Ils ont notamment pris pour exemple les essais voulus par McLaren, qui devait faire des essais pour le compte de Pirelli avec une voiture d'il y a 2 ans sur le circuit d'Austin au Texas à la fin du mois d'octobre, et ce à quoi certaines équipes ont dit niette, notamment Force India, parce qu'ils avaient peur que McLaren ait un bénéfice en roulant sur le circuit d'Austin quelques semaines seulement avant le Grand Prix des États-Unis. Donc voilà, c'est même si je comprends l'inquiétude de certaines équipes, c'est vrai que mine de rien, à chaque fois, chacun va avoir son petit intérêt, et on voit que à chaque fois qu'il y a ce type d'essai, il y a toujours des arguments pour dire ouais, mais ces essais-là ne vont pas se tenir parce que chacun voit un danger
ou
un contournement du règlement.
Inévitable. Enfin, à chaque fois qu'une équipe voudra faire un essai, on aura toujours une pour dire ouais, mais ça va les avantager ou ceci, cela.
Et donc un troisième sujet sur lequel tu voudrais revenir.
Bon bah je suis obligé, hein, je vais prendre le retour de Kimi. J'ai un peu hésité parce que bah tout va dépendre de la cohabitation avec Alonso, hein, clairement. C'est le gros point d'interrogation.
Il n'y aura pas de cohabitation, va se faire déchirer.
Ah oui, Alonso, oui, va se faire déchirer.
Ouais, d'accord, très bien. Sujet suivant. si j'étais un peu hésité, je trouve que bon déjà quand même je trouve que depuis 2 ans maintenant il a quand même fait je pense j'ai trouvé que chez Lotus je pense qu'il avait enfin trouvé entre guillemets l'équipe qui lui convenait vraiment bien, où il était tard, où il pouvait conduire tranquillement justement sans justement avoir toute la com et tout ce qu'il déteste dans la F1. Après j'ai toujours été un peu partagé, parce que c'est vrai que j'ai toujours quelque part un peu regretté le fait que bon, il y a une très bonne voiture chez Lotus, on est d'accord, mais qu'il est quand même pas la voiture pour se battre pour le titre, même si on y a cru un petit peu en début d'année. La Lotus a jamais vraiment été capable de jouer le titre, donc jouer des podiums c'est bien, maintenant c'est quand même pas le but ultime pour un pilote. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai toujours été embêté. J'étais quand même assez content de le voir chez Lotus. Justement, je trouvais qu'il était vraiment... Je trouve que depuis qu'il est chez Lotus, on a retrouvé un peu le Kimi, le grand Kimi de la période McLaren, entre guillemets. Pas le Kimi de la période Ferrari qui se la coulait un petit peu douce. Et j'étais très sceptique avant son retour en F1, justement. Je me disais, si c'est pour refaire ce qu'il a fait les 2 dernières années, peut-être pas forcément la peine. J'ai été très très agréablement surpris, justement. Et du coup, je me pose la question, justement, si en partant chez Ferrari, est-ce qu'il va pas un peu retomber dans ce schéma-là de... de se laisser un peu vivre. Maintenant, donc je suis quand même content parce que je pense que Ferrari, il a quand même de bonnes chances d'avoir la voiture pour se battre pour le championnat.
Ensuite, c'est beau l'espoir. Mais pourquoi je dis ça, moi? Je suis con, en fait.
Tu sais qu'Alonso, il aura la même voiture l'an prochain.
Je m'en fous, Vettel, il aura la Red Bull.
En tout cas, je pense qu'il, enfin, après, c'est vrai que l'année prochaine, tout sera distribué. Peut-être que Lotus va faire quelque chose de très bien. Auquel cas, on s'y sent, je vais le regretter, mais on verra. Donc je pense qu'il y a quand même a priori sur le papier de bonnes chances d'avoir une bonne voiture. Après donc bah le gros point intéressant c'est la cohabitation avec Alonso. Même si pour l'instant tout Alonso fait genre que tout se passe bien, je pense que tout le monde sait très bien qu'il est encore en
train de. Il continue encore de dire que tout allait bien avec Hamilton.
Oui voilà. après donc je me pose la question justement, donc tout le monde, enfin il y a en gros la moitié des observateurs qui disent que ça va refaire comme chez McLaren, d'autres qui disent que ça va bien se passer. J'avoue que je sais pas trop. Je pense qu'à la limite, s'il y a un pilote avec lequel ça peut marcher, c'est peut-être Raikkonen justement, parce qu'on sait très bien que lui, bah il conduit, et le reste tout ce qui est un peu politique, son équipier, tout ça, il s'en soucie pas trop. Donc peut-être que justement à la limite lui fera pas trop de vagues et que ça pourra contribuer à apaiser un peu les éventuelles tensions qu'il pourrait y avoir. Maintenant j'ai peur justement que son côté un peu je conduis et rien fait et que je fais rien d'autre entre guillemets, enfin que justement le fait qu'il prenne pas vraiment position, qu'il s'impose pas au sein de l'équipe, j'ai peur à cause de ça qu'il se fasse bouffer par Alonso qui est quand même très fort là-dessus.
Mais moi c'est je suis assez d'accord, c'est surtout là où ça risque de clasher, c'est que tu vas avoir un Kimi Räikkönen qui a strictement rien à foutre de la politique et un Alonso qui va avoir un boulevard pour faire de la politique et qui va certainement pas se gêner pour essayer de tirer la couverture vers lui. C'est peut-être, je pense pas qu'il y aura un clash entre les deux pilotes, mais que l'association des deux va quand même générer pas mal de tensions au sein de l'équipe et en
dehors. C'est certain de toute façon qu'il y aura plus de tensions que ce qu'il y a maintenant. Donc voilà, je pense en tout cas, c'est clair que de toute façon Alonso ça va radicalement lui changer la vie. À mon avis, si Kimi on lui dit Alonso, Fernando is faster than you, je pense que la réponse va pas se faire attendre. Hein. Donc,
mais on lui dira
oui,
pas.
De toute façon, voilà, on lui dira même pas.
La même manière qu'on n'a pas demandé à Raikkonen cette semaine, enfin ce week-end, de laisser passer Grosjean. Grosjean,
voilà, bien sûr qu'on ne le fera pas.
Il y a des gens à qui tu fais pas grésiller la radio.
Donc j'attends de voir. Maintenant, je pense, j'ai quand même pas mal d'espoir parce que je trouve justement que depuis que Raikkonen est revenu en F1, il a justement un peu plus entre guillemets cette dimension politique et stratégique qu'il n'avait avant. Je trouve clairement avant. Quand il était chez McLaren ou même en 2007 chez Ferrari, c'était je roule à fond et le reste, je m'en balance quoi. Là, j'ai l'impression qu'il passe quand même plus de temps à travailler avec ses ingés et tout ça. Même en dehors de ça, je trouve qu'il est quand même un petit peu plus dans la politique entre guillemets, qu'il est un peu plus stratège, notamment dans ses courses. À la limite, ses courses sont peut-être un peu moins flamboyantes que dans sa première période en F1. Peut-être parce qu'il a pas non plus une voiture aussi performante, mais justement parce que je trouve qu'il a acquis un peu une espèce de science de la course qu'il avait pas avant, où il a appris à être patient, à attendre le bon moment pour attaquer, à tirer les marrons du feu quand il faut, et à pas trop se précipiter, ce qu'il faisait pas avant. Donc du coup, peut-être, je me dis que peut-être avec tous ces changements entre guillemets, il est peut-être mieux armé pour lutter face à Alonso qu'il ne l'aurait été avant. En tout cas, je pense que ce sera une belle partie d'échec l'année prochaine entre les deux et dans tous les cas, ce sera intéressant. Donc bon, bah on verra.
Moi, j'ai hâte pas. Non, mais c'est-à-dire que on peut tout avoir, mais si tout s'emboîte, c'est-à-dire que soit en effet tout le monde dit oui, ça peut être un clash, ça peut être très violent l'an prochain Ferrari, mais si tout s'emboîte et que la voiture suit et que les deux pilotes suivent. Ça, ouais. Je pense aussi. Ça va tout déboîter, mais surtout pour les autres, parce qu'ils vont sortir passer.
Si vraiment
quoi.
Ils arrivent à faire une voiture, au moins, peut-être pas la meilleure voiture, mais à la limite, dans les deux ou trois meilleures voitures, avec les pilotes qu'ils ont, ça risque de faire très mal. Ça, c'est certain.
Et même quoi qu'il arrive, ce sera intéressant. Si la voiture est bonne, en plus, comme on sait que le moteur sera plus important, si la voiture est bonne, on sait quand même que Ferrari sera sans doute bien devant et que le titre se jouera entre les deux. Donc, il faudra voir comment les deux vont se battre pour le titre, comment aussi ils vont gérer par rapport à leurs rivaux, si les rivaux sont plus ou moins proches. Si la voiture est mauvaise, on verra aussi qui s'en sort le mieux. Donc, dans les deux cas, on va avoir, du côté de chez Ferrari, une saison extrêmement intéressante pour observer ces deux pilotes. Et je pense aussi, pour l'un comme pour l'autre, c'est aussi un moyen de rentrer un peu plus dans l'histoire d'une discipline en étant confrontés vraiment l'un à l'autre pour la première fois face à un calibre.
Oui, parce que on l'a beaucoup dit pour Alonso, mais faut pas l'oublier, pour Kimi Raikkonen aussi, il n'aura jamais eu un aussi bon.
Oui, mais à la limite, il y a quand même eu des équipiers, je trouve, un peu plus performants que ce qu'a eu Alonso.
Un peu plus consistant. Il a eu Coulthard, il a eu Montoya,
c'est pas non plus ces derniers, notamment cette sur ce Grand Prix.
Mais voilà, pour lui aussi, ça sera aussi le top.
Après, moi, il y a deux choses que je suis vraiment curieux de voir. Et si ça se passe mal, justement, quelles vont être les conséquences? Je pense pas que, notamment au niveau d'Alonso, surtout que ce qui m'intéresse, c'est comment Alonso va réagir. Je pense que Kimi, lui, il prendra ça un peu par-dessus la jambe et que dans tous les cas, il restera. Je pense que de toute façon, à mon avis, en fait, je pense qu'il sera à la F1. Sauf si vraiment il se sent très bien et qu'il gagne, mais bon voilà. Par contre, si ça se passe mal, je suis curieux de savoir est-ce qu'Alonso partira ou pas à la limite dès la fin de l'année prochaine.
Pour moi, sincèrement, quoi qu'il arrive de toute façon, même quoi qu'il arrive, il y a McLaren, il y a le défi avec Honda. Mine de rien, il y a quand même des choses qui trottent en tête. On voit que ça prend trop de temps chez McLaren pour officialiser les pilotes. Que Honda, ils ont vraiment envie de faire venir du lourd pour 2015. Et je pense que Honda serait peut-être pas trop regardant à l'idée de racheter le contrat d'Alonso. Je dirais c'est 50-50. Je pense qu'il y a une chance sur deux pour qu'Alonso
qui s'est arrêté. Et la deuxième chose qui m'intéresse de voir, c'est qu'est-ce que va faire Lotus l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont rester au top? Est-ce qu'ils vont se maintenir? Ou est-ce qu'ils vont couler? Et justement, ça va vraiment permettre de savoir est-ce que le facteur Raikkonen était vraiment si déterminant que ça ou pas? Est-ce que c'est lui qui a tiré l'équipe vers le haut ou pas?
Ça dépend qui vont choisir.
Ça sera même difficile de juger parce qu'il y a quand même beaucoup de changements pour eux. Il y a quand même pas mal d'ingénieurs qui partent. Enfin, surtout des gros ingénieurs qui partent. Et puis mine de rien, en termes de règlement, ils sont toujours pas officialisés le moteur Renault, je crois. Ça sera quand même, malgré tout, ça sera quand même difficile de savoir si c'est le facteur Kimi. C'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon, Kimi, parce que c'est un champion et parce que il a une aura, il porte une équipe aussi. Enfin, quand t'as un pilote comme ça dans une équipe, ça propulse l'équipe. C'est forcément une peur.
Après, ça dépend aussi qui ils prennent pour le remplacer.
Oh, je crois que là, on sait tous à peu près qui vont.
Oui, on est tous d'accord que si on était tous à la place d'Éric Bouly, on sait. Voilà. Déjà, qui on signerait.
Puis dernière question, est-ce que Grosjean va pouvoir s'imposer dans l'équipe ou pas? Ça peut être intéressant à voir aussi.
C'est, en tout cas, l'équipe a envie, visiblement, on l'a vu ce week-end, ils sont prêts à lui donner du galon, mais il faut qu'ils le prennent. Et donc ça, c'est plutôt un signe positif.
Lui a bien senti qu'il fallait, que c'était le moment de prendre le pouvoir aussi. Hein. On le voit clairement depuis, avec ses deux qualifs et même avec cette course-là, notamment la fin de course, on sent très bien que...
Face à un Kimi qui n'est pas démotivé, parce que certains ont dit après, oui, que peut-être il se démotiverait en attendant le début de l'année prochaine. Voilà, il fait 2 et 3, 2 podiums de suite.
Il est démotivé le samedi.
Oui, enfin ça, il a jamais été bien motivé le samedi. Hein.
Voilà, je veux bien qu'il soit tout le temps démotivé comme ça, hein, s'il ne fait que des podiums.
Donc ensuite, Iceman, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines, voire même ces deux dernières années, puisque ça fait 2 ans que tu n'étais pas là.
Alors ces dernières semaines, j'avoue que c'était... J'y réfléchis un peu avant de venir, j'ai pas trouvé grand-chose, donc je pense qu'à la limite, je vais prendre... la réélection du président de la FIA, c'est pas en fait que j'ai rien à foutre de savoir qui va diriger la FIA, mais bon, pour l'instant, on est dans une phase où on sait pas trop, enfin, il y a des gens qui disent qu'ils vont se déclarer, bon, mais c'est pas encore officiel, donc pour l'instant, tant qu'on connaît pas officiellement les candidats, voilà, ça m'intéresse
pas
trop.
On sait même pas si ceux qui sont déclarés vont pouvoir quand même être candidats.
De toute façon, dans tous les cas, je me suis pas trop intéressé au dossier, mais je pense, enfin, ce serait quand même assez étonnant, je pense, que Todd ne soit pas réélu. Enfin, c'est mon avis, mais les deux qui se sont présentés en face pour l'instant, je pense pas qu'ils aient un grand poids face à Todd, quoi.
Ensuite, quelle actualité en dehors des Grands Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Bah, on a déjà parlé, c'est que Hülkenberg signe chez Lotus, puisque je pense, pour les deux parties, ce serait quand même la meilleure chose à faire. Déjà, parce que pour Hülkenberg, ça me fait vraiment mal au cœur qu'il soit contraint de rester encore un an chez Sauber. Surtout vu ce qu'il a montré ses dernières courses.
Si Sauber reste comme sur cette fin de saison, ça peut être un bon deal.
Mais il avait pas dit que de toute façon l'an prochain il ne serait plus chez Sauber.
Apparemment Sauber.
Là dernièrement, il semblerait que Sauber soit prêt à le garder.
Bon maintenant mets-toi à la place de Sauber.
Oui.
Quand tu sais qui est-ce qui arrive à côté, tu dis bon.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Même chez Sauber, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il avait signé un an chez Sauber, il était sur le marché pour 2014.
Il est free agent.
Dans tous les cas, de toute façon, même s'il avait un contrat, vu qu'il n'est plus payé, de fait, il n'y a plus de contrat.
Et
aussi pour Lotus, je trouve que c'est clairement le meilleur choix. Massa, j'entendais la dernière fois, donc ce que tu disais, que tu pensais qu'il pouvait se développer, vraiment s'épanouir à nouveau dans une autre équipe. Personnellement, j'en suis pas persuadé. Peut-être, hein, peut-être que tu as raison, je sais pas. Moi, j'avoue que j'en doute. Je pense clairement que, de toute façon, même Massa, s'il revient, il est quand même sur la fin de carrière. Ce sera à la limite une solution pour 2-3 saisons. Alors qu'Hülkenberg, il y a vraiment moyen de construire quelque chose sur long terme avec les deux, Hülkenberg et Grosjean. Après, ça peut être aussi, du coup, ça peut aussi créer une tension puisque les deux sont des jeunes lourds dans très longues.
Si t'as Hülkenberg Grosjean l'année prochaine, à côté du duo, c'est pas le duo Alonso Raikkonen, mais ça va quand même être très sympa.
Voilà. Oui. Surtout qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça apprécie pas tellement les deux, je crois déjà. Donc, enfin voilà, je pense quand même que c'est clairement le meilleur choix pour l'un comme pour l'autre. Et honnêtement, je pense que Massa, en tout cas, s'il signe pas chez Lotus, qui a priori est peu probable, je pense qu'on le reverra pas l'an prochain.
Et donc ensuite, au contraire, quelle actualité toujours en dehors des Grands Prix n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines?
Ce que j'aimerais pas lire, bah justement, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est du fait d'alourdissement conséquent des voitures que les pilotes, justement entre guillemets, les plus lourds soient lésés, puisque, enfin, j'ai peur qu'on tombe. Dans un cercle vicieux, voilà, on va commencer à demander aux pilotes de pas être gros, de faire attention à ce qu'ils mangent, de pas manger.
C'était le cas en 2009. Hein.
Déjà, ouais, un petit peu, mais là, je pense que ce sera limite encore pire. Et je trouve que c'est totalement nul.
Donc rappelons que aujourd'hui, le poids minimum est à 640 kg avec des lestes, que l'année prochaine, avec le moteur turbo, avec le Kers, les batteries et compagnie, on a augmenté le poids, qui est un poids maintenant minimum à 690 kg. Ça inclut le pilote. Sauf que là, à ce niveau-là, aujourd'hui, il semblerait qu'aucune équipe ne soit en mesure de respecter ce poids-là, et même avec les lestes. C'est-à-dire qu'il y aura même plus de lestes.
Ouais, ouais.
Donc pour pouvoir, parce que les lestes ont aussi un intérêt de pouvoir un peu
rééquilibrer la voiture. Des masses,
hein. Donc aujourd'hui, c'est soit on demande aux pilotes de maigrir, soit on revoit le poids minimum. Certains disent qu'il faudrait le monter à 700.
Ouais, je pense que ce serait la bonne solution.
Ne serait-ce que la première année. Dire, on fait 700 la première année, et voilà. Après, on la diminue les années suivantes, en sachant que les technologies vont s'améliorer, et qu'ils vont sans doute réussir à gagner du poids par-ci par-là.
Ce que je voudrais vraiment pas voir, typiquement, bah, le cas d'Hülkenberg, c'est voilà, un très bon pilote, avec un avenir très prometteur, qui voit sa carrière brisée à cause d'un truc débile comme le poids. Ce serait vraiment dommage, quoi.
Donc enfin, est-ce que tu as un drive-through?
Ah, bah, je pense que ce week-end, ça va être facile, hein.
Vas-y, lâche-toi.
Vas-y. Bah l'organisation. Alors je sais pas trop du coup à qui revient la faute, c'est l'organisation ou la FIA ou. Je pense quand même que pour moi en tout cas c'est plus à l'organisation.
Dans les deux cas c'est grave.
Voilà. Surtout si c'est la FIA, c'est limite encore plus grave.
Mais donc si la FIA c'est grave, si c'est l'organisation, ça veut dire que tout ce qui concerne la sécurité, c'est la FIA qui demande envoyez-nous des pompiers et c'est l'organisation qui gère. En termes de sécurité, je suis pas sûr que ce soit très mal.
Voilà, donc ce qu'a dit Charlie Whiting, c'est qu'ils avaient donc il y a l'accident. Et il demande une voiture d'intervention. Le problème, c'est que la voiture d'intervention devait partir du virage 3, donc là où il y a eu l'accident, et donc elle sort, elle coupe pas la piste, quoi. Donc il y a pas de souci, les voitures peuvent continuer. Problème, il y a une mécompréhension quelque part. Alors,
non,
qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, moi, la version que j'ai eue, c'est qu'en fait, l'organisateur a jugé que la voiture qui était dans le virage 2 était mieux équipée pour répondre à l'incendie, et que donc, du coup, ils ont préféré envoyer la voiture numéro 2.
Voilà, Charlie Whiting a dit, nous, on a donné l'ordre, on pensait que ça serait le 3, et en effet, c'est la voiture du virage 2. Pas de bol en Corée, entre le virage 2 et le virage 3, il y a une ligne droite d'un kilomètre et demi.
Et pour moi, du coup, il y a deux choses graves là-dedans, c'est que d'une part, l'organisation met en danger les pilotes, et les occupants du 4x4, et surtout qu'ils se permettent d'aller à l'encontre d'une décision de la FIA, qui est quand même l'institution... qui régit la F1.
La FIA ne décide pas. La FIA demande d'envoyer une voiture de pompier. Après, c'est l'organisateur qui décide la meilleure option.
Oui,
ils vont pas à l'encontre d'une décision de la FIA parce que la FIA, elle a pas dit vous envoyez la voiture numéro 3. Je pense que s'il avait dit vous envoyez la voiture numéro 3, du virage numéro 3, ne serait-ce que ça, ça aurait déclenché une discussion où l'organisateur a dit écoutez, la voiture du virage numéro 2 est mieux adaptée pour ce type d'incendie. Autant l'envoyer. C'est d'ailleurs très con de foutre la voiture la mieux équipés au virage 2 plutôt qu'au virage 3 où on sait que chaque année il y a des pilotes qui se plantent. Bon, s'il y a risque d'y avoir un incendie, c'est plutôt à cet endroit-là. Donc c'est là que tu mets tes forces. S'il y a un vrai problème d'organisation, c'est dans le choix de mettre la voiture la mieux équipée dans le virage 2.
Il y a aussi le fait qu'ils ont tardé quand même, voilà, parce que finalement ils ont mis la safety car parce qu'il y avait le 4x4. Alors que quand tu vois la voiture, elle flambe quand même super bien, il y a un panache de fumée très rapidement, tu te dis quand même, il pouvait peut-être la sortir tout de suite, la safety car, ne serait-ce que par sécurité.
Et surtout dans ça, et puis il y a aussi le fait que les commissaires ont mis quand même très longtemps avant d'aller d'intervenir sur la voiture de Weber. Et bon bah c'est aussi dangereux hein. Bon je pense que là, pas forcément il y a pas vraiment de zone spectacle dans le coin et tout ça, les pilotes étaient déjà tous passés, mais rien que pour l'équipe Red Bull, je pense que ça va leur coûter quand même pas mal d'argent parce que la voiture
bah, apparemment les dégâts sont très conséquents.
Ouais, je pense que il y a de bonnes chances que la voiture soit morte. Donc même si une équipe comme Red Bull,
Renault a rassuré sur le moteur, ils ont rassuré en disant que ils avaient dans le stock des possibilités pour respecter le quota des 8 moteurs. Mais visiblement le moteur qui était utilisé en Corée, il était mort.
Même si je pense une équipe comme Red Bull peut se permettre de reconstruire une autre voiture, c'est pas le problème, c'est que une équipe, imaginons que ça aurait été, je sais pas moi, une équipe comme Marussia ou Sauber, là ça aurait pu vraiment être très lourd de conséquences pour la fin du championnat. Donc voilà, donc une grosse incompréhension générale. Voilà, je sais pas si c'est un manque de communication ou si les bonnes personnes n'ont pas compris les mauvaises décisions. En tous les cas, à ce niveau-là, c'est quand même inadmissible.
En tout cas, ils ont dit à la FIA qu'il y aurait des sanctions contre les organisateurs du Grand Prix.
Ça aussi, j'ai trouvé. Je pense que la FIA est très clémente, bizarrement, sur ce coup-là. Je trouve, à la limite, qu'ils auraient quand même mérité une sanction, à la limite, pas forcément très lourde, mais au moins, pour leur faire, voilà, pour France. Je pense qu'une action comme ça, enfin, à mon avis, ça peut pas rester impuni.
Mais le problème, c'est un problème de communication. Je pense que surtout, ça met encore une fois en évidence un point qu'on ne connaissait pas, c'est qu'en termes de sécurité, on est face à une FIA qui impose des standards au circuit, mais que c'est l'organisation qui se débrouille. Est-ce qu'à un moment donné, il est peut-être pas nécessaire de se dire, on va créer une brigade, une commission de sécurité, une brigade qui ira sur chaque circuit, sans forcément parler de commissaire permanent.
Mais
ne serait-ce que de dire, on a une brigade chargée de la sécurité qui est présente sur tous les circuits et qui, deux jours avant le Grand Prix, dit voilà, là, vous mettez pas cette voiture-là à cet endroit-là, qui font des briefings avec les commissaires, qui améliorent la sécurité. Aujourd'hui, on a l'impression juste que la FIA vient et que c'est chacun qui organise sa sécurité. On a déjà eu des problèmes de ce type-là. On a eu le camion à Melbourne c'est cette année ou l'année dernière, en pleine course aussi, à un poids lourd qui se trouve en plein milieu du circuit, dans les virages Senna et Prost à la fin. Enfin voilà, c'est pour le coup, moi j'ai pas envie de taper. On dit souvent, j'ai beaucoup entendu, c'est la Corée, on va dans des pays qui sont pas formés. Enfin l'Australie, ça fait 30 ans qu'on y va, et visiblement les mecs, ça les a pas gênés de mettre un poids lourd en plein milieu de la piste, même si on était sous safety car, ça les a pas gênés. Voilà, je pense que c'est un vrai problème, pour le coup, une vraie question qui devrait être posée à la FIA. C'est un vrai problème d'organisation, de comment fonctionnent véritablement les normes de sécurité, comment on fait respecter et comment est-ce qu'on essaye d'assurer une continuité pour éviter ce genre d'incident.
Tout à fait.
Je pense malheureusement que ces trucs, c'est la FIA ne sanctionne pas parce qu'ils sont en partie responsables, et que comme ils sont en partie responsables, en ne sanctionnant pas, ils ouvrent pas le débat, et donc du coup, ils vont pas faire grand chose, je pense, sur ce
côté-là. Et après, du coup, ça ouvre aussi un peu un autre problème qui rejoint un peu ce que tu disais, c'est que du coup la FIA arrive dans des circuits qui ont aucune expérience dans ce niveau-là et qui ne prend même pas la peine de former les organisateurs à un minimum de standards pour assurer la sécurité des pilotes.
Ils ont qu'un événement dans l'année, c'est le Grand Prix de Corée. Oui. Ils ont vraiment, sur le Grand Prix de Corée, ils ont vraiment que la Formule 1. C'est-à-dire qu'ils ont quand même construit un circuit avec deux voies d'estande, il y en a qu'une qui sert.
Oui.
La deuxième, on sait pas à quoi elle sert. Il y a pas de GP2, il y a pas de Formule Nippon, je dis Formule Nippon, mais de Formule Coréa ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, ils ont aucune expérience, même les organisateurs. À un moment donné, ils ont que 3 Grands Prix dans les pattes, donc c'est sûr que c'est comme un pilote, quoi. Évidemment, ils font des bêtises. Pour le coup, c'est à la FIA de se dire, surtout que là, l'année prochaine, il y a quand même 3 Grands Prix qui vont arriver, des Grands Prix qui n'ont pas forcément une culture, enfin, soit qu'ils n'ont pas une culture de la F1, du sport auto, on peut penser à la Russie, par exemple, soit qu'ils ont une culture très différente, on peut penser aux États-Unis, le Grand Prix le Grand Prix dans le New Jersey, sur circuit urbain, avec
circuit urbain,
les règles,
ouais,
américaines, voilà, on sait déjà qu'au Canada, on est déjà dans un mode de fonctionnement qui est nord-américain et que souvent, on a du mal à comprendre les interventions de safety car et compagnie. Donc, à un moment donné, c'est aussi à la FIA d'agir de ce côté-là, quoi. Et toi, tu as un drive-thru?
Oui, un petit drive-thru. Bon, je pense qu'on va en reparler plus tard, mais c'est quand même le management Mercedes, la stratégie Mercedes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis, mais est-ce qu'il y a deux fils qui se touchent là-haut, quoi, quand Lewis Hamilton leur dit, non, mes pneus sont morts, c'est pas la peine de me parler de graining, mes pneus sont morts, et que, sur le stand, ils se disent, Moi non, on va le laisser en piste. Il va perdre 2 secondes au tour, mais c'est pas grave.
Ça m'a rappelé la Chine 2007.
C'est...
Ah, la belle époque.
Oui, oh, oui, en plus, oui. Je, voilà, c'est...
Mais c'est peut-être ça.
Qu'est-ce qu'il leur a appris? Alors en plus, il s'est
lâché. La Chine 2007, bon, c'est Hamilton. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aussi au pilote de dire non, non, je rentre. Les
mais oui,
sont morts, je rentre.
Voilà, je rentre. Peut-être et de que mettre oui, le pilote, forcer,
De mettre devant cet accompli l'équipe et dire non, je rentre. De toute façon, à un moment donné, c'est quand même le pilote qui est en piste, même si lui, même si les pneus sont nickel, lui, il est pas confiant dans la voiture. Si le pilote est pas confiant, j'arrive pas à comprendre comment tu peux laisser un mec qui est pas confiant dans ses pneus le laisser attaquer en sachant que le mec n'est pas dans un état d'esprit pour attaquer.
Bon là, en plus, il y a eu le double effet qui se coule, puisque il y a ce qui s'est passé avec Rosberg. Donc, il a encore perdu un tour.
Non, on en a pas parlé d'ailleurs. Ça n'a choqué personne, Rosberg, hein. Alors, Grosjean, on en a parlé pendant 2 jours. On a fait un mini Grosjean Gate autour des conversations radio, qu'en fait, il n'y a pas de raison de fouetter un chat. Par contre, Nico Rosberg, qui pète un aileron, qui reste devant son coéquipier pendant tout un tour avant d'entrer au stand. Là, tout le monde s'en branle. Non seulement en matière de sécurité, mais en plus en matière de camaraderie. C'est pas un comportement.
Mais il était quand même vachement rapide avec son aileron.
Mais il a fait des étincelles. C'est un concept qui va être étudié l'année prochaine.
Bah, je pense, à mon avis, enfin, il a dû se rendre compte que quelque chose allait pas, je pense, mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment rendu compte tout de suite que l'aileron était.
Il a dit qu'il s'en est rendu compte tout de suite. Dans la ligne droite, il s'en rend compte.
Au moment où ça pète, il s'en rend compte. Et puis même au niveau de la conduite.
C'est sûr qu'il a dû.
Mais c'est vrai que son insistance à rester devant Hamilton, et le fait qu'il ne serait pas une consigne de l'équipe en disant écoute, mets-toi sur le côté, surtout qu'il y a personne derrière, donc tu continueras à aller plus vite, au moins tu gêneras pas Hamilton qui est déjà en train de patauger dans la foule.
Oui.
Bon. Une dernière, c'est quand même un peu inquiétant que l'aileron se brise comme ça.
Ils ont parlé de faiblesse structurelle, ouais.
Puis enfin c'est au moment vraiment
oui, quand l'aileron reprend la charge aéro quoi. Mais c'est quand même donc, du coup, c'est... pas normal.
Non.
En tout cas, c'est dommage parce que il était sur une bonne lancée, Rosberg, avant que ça lui arrive.
Mais c'est ça le pire, c'est qu'il fait un week-end pas très bon. Et le moment où il est bon,
oui,
où il dépasse son coéquipier, même si son coéquipier est en souffrance avec ses pneus, il lui a mis le couille. C'est dommage.
Parce que pour le coup, il aurait peut-être pu finir devant Hamilton. Bon après, on ne sait pas comment ça va passer la suite, mais
oui. Lui visait le podium.
Ouais.
Je ne répète que ce que dit Rosberg.
Je sais pas, pourquoi pas, mais en tout cas, il aurait pu viser, je pense, la 5e place. Ah oui, c'était faisable. Voir.
C'est bien, Chidi, on va gagner du temps dans le top 10.
Oui, c'est bien ce que j'étais en train de me dire.
C'est tenté que Rosberg soit dans le top 10, gardons le suspense.
Oui, on verra. Et toi, Dino, tu avais un drive-thru?
J'hésite. Allez, je vais mettre un drive-thru à Eric Boullier, que j'ai trouvé extrêmement maladroit dans sa réaction d'après-course sur le cas Grosjean, puisqu'il a déclaré sur la Sky que Grosjean avait supplié pour avoir des consignes, enfin qu'il pensait que Grosjean avait supplié pour avoir des consignes, et qu'il avait un peu remis Grosjean à sa place. Moi, ça m'a beaucoup étonné de la part de quelqu'un qui a quand même souvent défendu Grosjean contre vents et marées, de le voir là pour une non-affaire, parce que c'est sincèrement une non-affaire, enfin en tout cas un truc qui peut se laver en famille, voir étaler comme ça et surtout clasher comme ça Romain Grosjean publiquement. J'ai trouvé ça très bizarre et j'ai même, pour le coup, ça me fait avoir des soupçons sur toute cette histoire. Voilà, je trouve que la réaction de Boullier, la manière dont il est intervenu à la radio, là c'est parfaitement son droit, puis ensuite la réaction où très rapidement après la course, sur l'antenne de la Sky, il clash Grosjean, ça me paraît bizarre. Et ça, pour moi, ça cache quelque chose.
C'est vrai que je trouve que ça a été assez mal géré par l'équipe, cette histoire.
Le message audio était assez obscur, c'est vrai, quand il a directement parlé à Grosjean. Ouais.
Surtout que le message audio qu'on entend, c'est on demande à Grosjean de continuer d'attaquer, d'aller chercher Raikkonen. Lui dit je peux pas, je garde ma position. Et on a Boullier qui dit continue de faire ta course. Donc on n'est pas du tout dans un contexte où on a Grosjean qui quémande des consignes. C'est Boullier derrière qui explique que Grosjean quémande d'implémenter des consignes. Enfin, on a envie de dire, la conversation radio, elle peut faire discuter, mais à la limite, tu t'expliques pas qui demande des consignes, bah, c'est juste, voilà, c'est juste Romain Grosjean qui avait le feu vert pour aller essayer d'aller chercher Raikkonen. On a l'impression que Lotus essayait de justifier qu'il n'y avait pas une consigne pour, enfin, qu'il n'y avait pas une mauvaise ambiance chez Lotus et que maintenant Grosjean avait le droit d'attaquer Raikkonen, quoi. On avait l'impression qu'il s'est essayé de se justifier d'avoir changé de politique par rapport à Raikkonen.
C'est un peu ça. Mais
je trouve ça assez bizarre.
Je trouve ce que je trouve bizarre, c'est que pour moi, enfin, dans la réaction de Grosjean, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a reçu une consigne avant lui disant de pas attaquer Raikkonen. Sinon, je pense pas qu'il aurait dit ça. Mmh. Moi, personnellement, je l'ai compris comme ça, en tout cas. Donc, c'est assez bizarre. A priori, au début, ils lui disent de pas attaquer Raikkonen. Ensuite, ils lui disent qu'il peut. Je trouve que ouais, c'est assez obscur.
Donc voilà, c'est tout pour l'heure de gloire de l'invité. Ton heure de gloire, ta première heure de gloire.
Oui, merci.
Qu'est-ce que ça fait?
C'est
exclusif. Ah, écoute. voilà. Bon, on va passer à la course, tu dis.
Oui, et on va passer à la course. Et bien évidemment, au qualif. Et cette semaine, bon, c'est pas une surprise, hein, nos deux guignols. C'est quoi que, en général, il y en a qu'une, Williams. Là, c'est les deux, hein. Maldonado 18, derrière Bottas 17. Maldonado qui découvre un peu qu'il est chez Williams, j'ai l'impression, vous avez vu, il a déclaré, je préférais ne pas être en F1 plutôt que d'être dans une voiture en fin de grille.
Mais...
Tu sais où tu roules? Voilà.
Et surtout, t'as envie de lui dire, t'es au courant que tu payes 35 millions
pour une Williams?
Pour être là?
C'est sûrement pour ça qu'il s'est permis de l'ouvrir.
Sans doute, oui.
Parce qu'à mon avis, sinon, il aurait pas fait de vieux os.
Non, mais ça se trouve, c'est-à-dire qu'il y a une place qui se libère chez Williams l'an prochain.
C'est possible.
Ah, Massa.
À noter qu'encore une fois, les deux Français du fond de grille ont été devant leurs coéquipiers.
Bah, tout juste pour Pique, hein.
Ah oui, Pique,
oui. Il est quelques millièmes juste devant Van der Garde. C'est pour ça que quand t'as Jean-Louis Moncé qui est dans Formule 1 te dit « Ouais, Pic, il a fait un très bon week-end.
Ouais, » Ouais,
quand même. en qualif, il a été devant Van der Garde. Bon, c'est vrai que Van der Garde est très bon en qualif. Mais il a été devant Van der Garde pour un poil de cul. Donc.
Ah, j'ai pas vu les qualifs cette fois, mais c'est vrai que depuis quelques temps, Van der Garde, il commence à titiller un peu Pic régulièrement.
Même Chilton, hein, qui est pas très très loin de Bianchi, hein, je crois qu'il est à 2-3 dixièmes pour un pilote qu'on a pas mal critiqué. C'est sincèrement, c'est
pas
mauvais.
De toute façon, ça pouvait difficilement s'empirer.
En Q2, Jean-Éric Vergne finit 16e, Di Resta 15e derrière son coéquipier, Adrien Sutil 14e, Ricardo 13e seulement. Ça fait longtemps que habituellement Ricardo arrivait à atteindre la Q3, pas cette fois-ci. Et en tête de la Q2, entre guillemets, les deux McLaren, Button 12e, derrière Perez 11e.
Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas foirés en Q2.
Qui ça?
Ben, longtemps. McLaren.
Oui, non, c'est vrai.
Ils avaient réussi quand même à se monter un peu en Q3. Ils étaient très ambitieux ce week-end, ils étaient convaincus de pouvoir lutter avec Lotus.
Bah, faut dire, il y a une équipe qui n'est pas non plus super habituée à la Q3 qui a fait une bonne qualif.
Mais de qui tu parles?
C'est à peu près la même couleur, non?
Oui, c'est vrai. En Q3, Kimi Raikkonen a fait seulement 10e, derrière donc Esteban Gutiérrez 9e et Nico Hülkenberg 8e, devant les deux pilotes Ferrari, Felipe Massa 7, Alonso 6e, Nico Rosberg à la 5e place, Romain Grosjean à la 4e, Mark Webber autant s'était classé donc 3e, et en première ligne, Lewis Hamilton 2e derrière Sébastien Vettel.
Moi j'ai pas vu les qualifs, pourquoi Raikkonen s'est vautré? Bon, c'est vrai que les qualifs c'est pas son truc, mais bon, 10e quand même.
Non.
Moi j'étais comme Takinoué, je me brossais les mains.
il me semble avoir lu, il a dit qu'il avait fait une erreur dans son tour, mais
Non mais il fait tout le temps des erreurs en qualif.
Vaut mieux les faire là, hein.
Oui.
Vous connaissez, c'est Raikkonen. Hein. Vous connaissez mieux que moi. J'ai pas envie de bon, de toute façon, même Raikkonen, surtout le début du week-end, il a pas eu l'air non plus très... Grosjean a eu l'ascendant sur le début du week-end. Ça, c'est vraiment, ça, comme
un
souvent,
peu
ça
comme d'habitude. Oui.
En tout cas, sur les derniers Grands Prix, c'est un peu le schéma.
Bon, sur les deux dernières années, hein, globalement.
Cet homme est fan de Kimi Räikkönen.
Non, mais même. Je pense que tu peux prendre des chiffres. À mon avis, il y a plus de
bruit.
Je pense que.
Donc, au niveau des places perdues, donc Mark Webber a été rétrogradé de 10 places pour avoir reçu une 3e réprimande il y a une semaine. C'est ça qu'il faut dire. Faut pas dire, oui, il a pris 10 places parce qu'il a fait le taxi. Non! Il a pris 10 places parce qu'il a reçu une troisième réprimande.
Parce qu'il a fait le taxi, pardon.
Parce qu'il a fait le taxi.
Non, même pas. Non, non, il a reçu une réprimande parce qu'il a traversé la piste.
Oui, c'est vrai.
Il a traversé la piste sans l'autorisation.
Exactement, c'est vrai.
Mais il a traversé la piste pour prendre le taxi.
Et Alonso, il a pas fait le taxi. Alonso, il s'est arrêté sur la piste sans raison.
Vous avez le droit de faire le taxi, mais proprement. C'est comme à Paris, il y a des bornes, voilà, les bornes taxi, on n'est pas à New York,
en fait,
donc voilà.
Le taxi, il faut que le pilote, il fallait qu'Alonso, il aille dans le bac à sable, il aille du côté du poste des commissaires, et sans s'arrêter, que Marc saute sur la Ferrari et qu'Alonso reparte.
Et puis qu'il oublie pas de se mettre en tarif B, parce qu'à Singapour, c'est de nuit, n'oubliez pas aussi. Et aussi, parce qu'on l'a... On l'a peu évoqué, mais Bianchi a été rétrogradé 2-3 places pour avoir gêné Paul Di Resta durant les qualifs.
Ça m'énerve, ça.
Bah, alors là, c'est la règle, quoi.
Ouais, non, mais moi, sincèrement, à un moment donné, il va falloir qu'on m'explique concrètement comment un commissaire juge si un pilote a gêné ou pas.
C'est bah, après, voilà, c'est la règle.
Parce que je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup à qui on pourrait mettre
parfois,
des pénalités.
Parfois, il y a des ralentissements visibles. Quand c'est visible, ok.
Ouais.
Mais parfois, c'est... Oh là
on
là,
est quand même dans un format qualification.
Imaginez,
où,
il était 400 mètres devant moi.
C'est quand même le genre de pénalité qui n'arrive quand même. C'est des pénalités, ça, on les voit en ce moment. C'est que pour les pilotes, soit les pilotes Caterham, soit les pilotes Marussia, soit les Williams occasionnellement, soit des rookies. Je trouve que ces pénalités, c'est une vraie
connerie. C'est drôle qu'ils en mettent. C'est vrai que ce serait sympa, que ce serait surprenant qu'ils en mettent une à Vettel une fois.
Non, je crois que c'est Vettel, il me semble, Vettel ou Hamilton qui s'est plaint d'avoir été gêné par Raikkonen. On n'a pas eu d'investigation, rien. C'est que dalle. Par contre, Bianchi, il a été gêné par Di Resta. Alors que c'est vrai qu'on comprend, Di Resta, il joue le championnat. Bon, voilà. On comprend qu'il ait été gêné par Bianchi, qui a une Marussia. C'est.
Alors, Dino, on va passer au top 10. Peux-tu nous indiquer les pilotes qui ne font pas partie du top 10 cette semaine?
Oui, je commencerai, Shinji, par vous dire que vous avez été 169 à voter. Oh. Ce qui est notre quatrième meilleur taux de participation, le record étant de 241 votants. J'ai fait des petits calculs ce week-end.
T'as vraiment du temps à perdre.
Ouais, j'avais 2 minutes devant moi. Et, et donc, en 22e position pour ce Grand Prix de Corée, pour ce top 10, il ne marquera pas de points. C'est Max Chilton qui a marqué 3 points, mais qui ne marquera pas.
C'est bien, il a marqué 3 points.
C'est peut-être son record de l'année. Non, je déconne. Alors, il faut dire qu'il y a un gap avec la 21e place, puisque la 21e place, c'est Valtteri Bottas qui a marqué 21 points. Alors, en 20e position, nous avons Paul Di Resta qui a marqué 33 points. C'est sans doute une note attribuée pour son magnifique crash. 10e position, Adrian Sutil fait un tout petit peu mieux. Effectivement, il a fait des flammes. Ça a été encouragé par nos auditeurs qui lui ont donné un petit point de plus. 34 points. Bravo Adrian, continue sur cette voie. En 18e position, nous avons Guido van der Garde, 41e. Juste derrière, Jean-Éric Vergne, hein, 55 points, 17e. 16e position, nous avons Jules Bianchi, 87 points. En 15e position, nous avons le 3e français, Charles Pic, 106 points. Il est ex aequo au nombre de points avec Maldonado, mais il a fini derrière en course. Et donc Maldonado est, lui, 14e. En 13e position, c'est le chiffre qui porte malheur. Et ça s'est senti pendant son Grand Prix, puisqu'il a perdu un pneu. C'est Sergio Pérez, 127 points. Un tout petit point derrière son futur rival. Parce que, ne nous l'aurons pas, le vrai rival de Pérez l'année prochaine, c'est lui. C'est Daniel Ricciardo avec 128 points en 12e position. Et donc Mister Eleven, très très loin de Mister Ten,
oui,
qui a marqué 430 points. Mister Eleven a marqué 143 points. Et rassurez-vous, vous n'avez pas entendu son nom jusqu'à présent. Vous avez peur qu'il soit dans le top 10. On vous rassure, il n'est pas dans le top 10. C'est Esteban Gutiérrez. Mais il n'est pas loin. Il est 11e.
Alors juste moi...
À noter que le vainqueur a marqué 2881 points.
Exactement.
Et que ce fut très serré.
Oui.
Je me suis toujours posé une question. Je critique absolument pas le choix des auditeurs, mais j'ai toujours posé la question. J'aimerais bien savoir ce qui motive les gens qui donnent des points, par exemple à Chilton ou à Maldonado, ou ce genre de choses. J'avoue que je serais curieux de savoir... Pourquoi, en fait?
Il y a de la pitié.
De la pitié?
Oui.
Non, mais tu sais, il y a 169 votants. Ça veut dire que sur les 169, il y en a peut-être 3 qui l'ont mis 10e.
Oui, mais quand même. Pourquoi déjà? C'est... Rien que ça.
Ah, oui. Mais ça se trouve, ils ont mis Bianchi 7e. C'est ça qu'il faut se dire.
Et puis ces gens ont des fans. Donc
Mais c'est vrai que je crois que c'est très peu arrivé cette année. Ça a dû arriver une ou deux fois qu'un pilote n'aille pas.
Je crois que c'est arrivé 2 fois.
Je pense qu'il y a des gens qui se gardent les 2-3 dernières places, peut-être.
Oui, voilà.
Spécifiquement pour les pilotes de fond.
Ouais, peut-être.
Alors, notez, dis donc, que tu as donné 2 points à Gutiérrez.
Oui. Oui, parce qu'il fait un... pour encourager la progression.
C'est vrai.
Il est en Q3, il part 9e. Il fait une course... c'est la trajectoire opposée de son coéquipier parce que Hülkenberg part juste devant lui. Je crois que Hülkenberg est 8e en qualif, donc voilà, c'est mine de rien, il est en Q3, ça progresse. Il progresse avec la Sauber et voilà, il est toujours aussi fébrile en course, mais il y a un peu de progrès.
Et tu as donné aussi un point à Bottas.
Ah, il a gagné ce point aujourd'hui. Il se trouve qu'il a un coéquipier qui a eu le malheur de dire aujourd'hui, je ne suis pas là pour battre Bottas. Oui, Pasteur, mais en même temps, ça sera bien de le battre. Ce que tu n'as pas fait ce week-end. Certes, Pasteur Maldonado, je crois il devance pour le moment 8 fois contre 5 Bottas en course, mais cette semaine, on a Bottas qui est passé devant en qualification, 7-6. Voilà, donc avant de dire je veux battre contre les meilleurs, que ça te pèse ou pas d'être dans le ventre mou du peloton, t'as un coéquipier en face de toi, la moindre des choses c'est de battre, et pour le moment, Bottas, il arrive à rivaliser avec un vainqueur de Grand Prix.
J'ai trouvé ça très très malvenu quand même de la part de Maldonado.
Surtout alors que ce week-end il a été battu en qualif comme en course par son coéquipier.
Oui non mais même sans ça, surtout que on sait jamais, mais a priori on va pas trop se mentir, Maldonado, je pense que ce sera jamais un Alonso ou un Vettel. Hein. Donc j'ai trouvé ça très présomptueux de sa part de...
Il nous écoute peut-être. Tu n'as pas envie de te fâcher avec un mec qui a la tête de Maldonado. Rappelle-toi Freddy Krueger.
Il a tout le panier celui-là derrière lui quand même. Faut pas
oui d'accord mais voilà je pense qu'il s'est clairement pas mis de l'ouvrir parce qu'il sait qu'il a le pognon derrière. Mais
c'est plus trop sûr qu'il ait le Venezuela apparemment. Hein. Lui-même il a
J'ai trouvé vraiment ça très irrespectueux déjà pour Williams qui quand même veut bien le garder alors que je pense que s'il avait pas ses billets je pense qu'il serait jamais arrivé en F1. Donc voilà, dommage, c'est entre guillemets, je regrette que Williams ne soit si dépendant de ses billets parce que j'aurais bien aimé qu'il le foute dehors histoire de lui faire croire qu'il a quand même la chance d'être en F1 et que c'est pas non plus donné à tout le monde. Voilà, c'était mon petit coup de gueule contre Maldonado.
Il sent que le baquet Lotus lui échappe.
À la 10e place, il a marqué 529 points. Donc voilà, il y avait vraiment un gros écart quand même entre la 10e et la 11e place.
Ouais, d'ailleurs, je me suis gouré dans le monde.
C'est Felipe Massa que j'ai mis 10e comme Iceman. Et Dino, tu l'as mis 8e.
Ouais.
Mais pourquoi ?
Bah, course plombée au début, hein, forcément.
Alors, il a expliqué qu'il était arrivé trop vite et qu'il a voulu éviter d'accrocher Rosberg qui était devant lui. Donc, du coup, il est monté sur les freins, la voiture est partie et il a manqué de percuter Almonaco.
Oui, voilà. Mais après, ça a remonté, n'est pas non plus. Parce que quand tu vois les images, c'est vrai qu'il arrive bien vite quand même. Hein.
Ouais. Il avait oublié qu'il y avait un virage à ce moment-là. Je suis mais moi j'étais parti, moi je voyais une grande ligne droite, je me suis dit hop, allez hop, je mets le limiteur de vitesse, le cruise control, allez hop, voilà.
Et il arrive quand même à finir dans les points.
Ouais, mais bon, avec les voitures de sécurité, et puis, à un moment donné, il a dépassé Gutiérrez, dans la ligne droite, c'est trouvé ça impressionnant.
Oh,
il a été opportuniste dans le groupe de 4, mais en dehors de ça, j'attends de voir la course qu'il est capable de nous faire sur cette fin de saison.
Oui,
parce qu'il nous a promis qu'il allait nous montrer, et j'attends.
Ouais. Bon, moi, personnellement, c'était un peu au classement, Je me suis dit bon que ça un peu pour récompenser sa remontée. Bon après j'ai pas jugé que ça méritait beaucoup plus qu'un point.
Ah puis c'était peut-être son dernier Grand Prix de Corée. On sait bien c'était peut-être le dernier Grand Prix de Corée
pour tout le monde. Oui.
Bah d'ailleurs on n'a pas trop parlé de Weber que c'était son dernier Grand Prix de Corée. Non. Apparemment là c'était pas grave.
Au moins lui on en est sûr.
Par contre c'était son dernier barbecue en Corée, ça c'est certain. À la 9e place, dans ce cas-là, on va y passer tout de suite. Il a marqué 624 points, c'est Jenson Button. Alors, je l'ai mis 9e, comme Iceman. Moi, c'est surtout au classement.
Ouais, un petit peu pareil. Je sais plus pourquoi je l'ai mis devant Massa, en fait. Ah si, parce qu'à la fin, il était quand même un peu dans le groupe Hülkenberg, Hamilton, Alonso. Bon, il a lâché prise sur les derniers tours. Mais bon, il a réussi un petit peu, donc j'ai jugé que c'était... Puis il finit devant Massa aussi au classement, donc...
Oui, voilà.
Donc voilà.
Pareil. Moi, j'ai hésité, j'ai failli lui donner 15 points.
Tu mens très mal.
Non, je te jure, j'ai dit, j'ai hésité, j'ai failli...
Après, c'est vrai qu'il a quand même...
J'ai hésité entre 3e et 11e. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai remis 3e, c'est qu'il y avait Jessica Buchibata qu'on avait sous quête. Et ça méritait des points. Mais je me suis dit, c'était pas une bonne raison.
Si tu mets troisième à chaque fois qu'il y a Jessica Michimatas pendant le paddock.
Non, mais mine de rien, lui aussi a quand même fait une belle remontée puisqu'il a cassé son aileron au premier virage. Donc, à la limite, tous les deux comme Massa, ils sont partis du fond. Button est remonté un peu plus haut, donc.
À la huitième place, il n'a pas fini la course. Il a marqué 707 points. C'est l'homme au barbecue. C'est Mark Webber. Alors, je l'ai mis aussi huitième, comme Iceman. On est très synchro ce soir. On a des très très similaires. Mais en même temps, on a aussi des classements très similaires au vrai classement, pour tout dire. Hein. Mais
J'ai dit moi.
Similaires, pas identiques. Similaires. Et Dino, par contre, tu lui as pas donné de points.
Ah, carrément.
Non.
Parce qu'il avait pas fini.
Je cherche pourquoi j'ai pas donné de points, parce que c'est Webber et que j'en ai plus rien à foutre. Sincèrement, je suis désolé, c'est terrible, hein. Mais je sens qu'il lâche complètement le bout et que il subit plus la fin de saison qu'il la vit vraiment, et donc du coup, je m'intéresse plus du tout à ce qu'il fait.
Je suis assez d'accord, terrible, mais hein. Ritou, lui aussi, il était quand même pas mal remonté. Il était remonté jusqu'à la cinquième place, je crois, avant la safety car devant Alonso. Donc ça pouvait potentiellement faire quelque chose de pas mal à l'arrivée.
Il est vraiment pas
ça. Ah oui, cette année.
Là, on peut pas dire. On peut avoir des soupçons sur Red Bull, il y a des voitures différentes et compagnie. À un moment donné, là, clairement, c'est la chance.
C'est
le mec, il est victime d'un crash. C'est un coup, c'est la boîte. Même le sort s'en mêle, quoi. S'il y a pas Red Bull.
En plus, même pour que un tel crash se finisse de cette façon, c'est quand même voire vraiment un sacré manque de bol.
Alors, vous expliquez la raison. C'était en fait parce qu'il a quand même pas mal été endommagé,
et c'est une durée d'huile,
et lui là il est rentré en contact avec les échappements qui sont à plus de 800 degrés.
Sur le coup ils ont pensé que c'était le gaz, mais non, c'était le radiateur.
Ce qui est quand même pas de bol, il tape pile là où il y a le radiateur, quoi. Il perd ce radiateur.
C'est-à-dire que la Red Bull est conçue de manière à que peu importe où tu tapes, tu touches, il tape.
Non, mais c'est...
Il y a que le pilote qui est à peu près à l'abri.
Oui, mais il n'est pas vital le pilote dans une Red Bull, donc c'est pas...
Je te dis, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu vas ravaler tes mots tout de suite.
C'est vrai que c'est quand même un peu malheureux pour Webber. Enfin, moi personnellement, c'est un pilote que j'ai toujours plutôt bien apprécié, et je trouve que là, il est en train de quitter la F1, comme tu disais, il a l'air vraiment démotivé, il est en train de sortir par la petite porte, et enfin, je trouve qu'il, enfin, il mérite mieux, quoi.
Il aura tout. Moi, à la place de Porsche, je commencerai à m'inquiéter. Il commence.
Non, parce que je pense justement qu'il est déjà.
Oui,
dans Porsche.
Oui.
Il est déjà. Il est
non,
déjà
je parle plutôt du côté Schkumun. Pas le côté démotivation.
Mais c'est vrai que, mais en même temps, je pense aussi que ça entraîne aussi, c'est-à-dire que je pense que si lui, il a déjà dit que ça faisait une ou deux saisons qu'il était plus ou moins démotivé. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une excuse qu'il trouve pour justifier son comparatif avec Vettel. Là, c'est clair qu'aujourd'hui, il est complètement démotivé et qu'il n'a plus vraiment la tête à la Formule 1, que la Formule 1 ne lui convient plus, qu'il a décidé de partir depuis un an. Donc, et là, il a quand même fait un début de saison où il a tenu le truc, mais une fois que c'est devenu public et que tout le monde lui en parle, je pense que ça y est, il est déjà parti. Et en même temps, comme le mec est déjà parti, je pense qu'il met peut-être aussi moins de détails, il apporte moins d'attention à certaines choses, ce qui peut expliquer les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui. Ce qui peut aussi expliquer un éventuel manque de vigilance. Bon, là, il est pour rien sur la
couche
avec Sutil, mais un manque de vigilance en piste, un manque de hargne, un manque de motivation pour faire certaines choses qui peuvent lui permettre d'améliorer sa voiture. Je pense que ça a aussi un impact là-dessus.
Ça me rappelle Kimi en 2009.
Mais j'ai cru parce qu'en qualif, il fait une belle qualif. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'était pas dégueu.
Avec en ayant travaillé essentiellement pour la course, voilà, en ayant des réglages un peu plus avec la ligne droite pour dépasser. Ils avaient anticipé les 10 places de pénalité. Il arrive quand même à faire une troisième place en qualif. Bon, à une certaine distance de Vettel, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir par exemple à Singapour.
Il était pas mal qualifié à Singapour, non?
Non, mais l'écart est quand même plus important.
Oui, peut-être. Ouais.
Enfin, en comptant le fait que Vettel n'a pas le chapeau.
Ensuite, eh bien, après le Pokémon Feu, on va parler du Pokémon type éclair, hein, puisque à la 7ème place, avec 901 points, c'est Nico Rosberg.
Et donc après, en 6ème position, nous allons parler de... Non, mais que dire de plus que ce qu'on a dit tout à l'heure.
Peut-être dire à quelle place on l'a mis.
Alors moi, je l'ai mis 5ème. J'ai hésité. j'ai failli l'inverser avec l'autre, mais voilà, bon. Iceman, oui.
Wouh!
C'est vrai que tu ne l'as mis que septième, Dino.
Ouais, je vous lis parce que vous l'avez mis trop.
Je pense qu'il aurait
pu faire quelque chose, ouais.
Voilà, c'est...
Il a été mis en course, c'est-à-dire qu'on est retombé vraiment dans la physionomie d'une course où ça se joue un peu sur les pneus, on a retrouvé des Lotus très fringantes, on a retrouvé des Mercedes un peu plus en délicatesse, et on a vu chez Mercedes que le premier à avoir des problèmes c'était Hamilton, et que Rosberg tenait mieux la route, et on retrouve un peu cette physionomie qu'on avait en début de saison. Voilà, et qu'on avait perdu, notamment avec le changement des pneus, et qu'on peut penser quand même que l'un des perdants chez Mercedes du changement de pneus, ça a été Rosberg, et que l'un des gagnants, ça a été Hamilton. Voilà, on a retrouvé un Rosberg qui en course arrivait à faire la différence, alors que sur le reste du week-end, il soutient pas vraiment la comparaison avec Hamilton. Mais bon, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, au moment où il peut passer devant,
il est quand même assez malchanceux lui aussi cette année par rapport à Hamilton. La plupart des tuiles, c'est quand même souvent tombé sur lui, notamment la casse moteur en Hongrie, deux abandons en début d'année. Je pense que s'il avait pas eu tous ces soucis, il aurait été beaucoup plus proche d'Hamilton au championnat.
Et c'est bizarre, hein. Là, il y a personne qui dit que c'est Mercedes qui favorise. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a personne qui dit, ils ont pas le même matériel.
Il a plus de victoires.
Ouais,
c'est au moins ça.
Il a moins de pôles. Mais après c'est même après le changement d'aileron, ça reste une bonne course. Il a perdu quand même beaucoup de temps dans le changement d'aileron.
Et au final, il finit juste derrière Alonso, donc
oui. C'est pas non plus. Ah ouais. Bon, sachant qu'il bénéficie de la voiture de sécurité, mais bon.
Oui, mais bon, un peu comme tout le monde. Enfin, pas comme.
Oui. Oui, voilà. Non, mais c'est ce qui justifie les écarts, quoi.
À la sixième place, il a marqué 1232 points. Je l'ai mis septième, comme Iceman. Dino, tu l'as mis sixième. C'est Fernando Alonso.
J'aime bien comment tu dis sixième, comme si j'avais mis troisième. Nous, on l'a mis septième, et toi, tu l'as mis sixième.
Oui.
Mais quelle folie t'as pris. Ben, j'ai pas mis Rosberg à la même place que vous, parce que...
Oui, c'est sûrement ça, ouais.
Non, sur la course... voilà, Alonso, cette année, quand tu lui retires ses départs, il n'y a pas grand-chose. Il peut malheureusement pas faire grand-chose. On a vraiment l'impression que Ferrari sont perdus, parce que là, pour le coup, comme je disais, on est revenu sur une course qui rappelait un peu le début de saison avec une dégradation des pneus. Là, même si c'était plutôt les pneus avant qui se dégradaient, contrairement aux pneus arrière. Lotus en est bien sorti. Ferrari, ils ont semblé un peu à la masse avec des problèmes de pneus. C'est pas compréhensible. À un moment donné, c'est juste pas compréhensible. On a l'impression vraiment qu'ils savent pas du tout où ils vont, qu'ils vont dans différentes directions. Et qu'à chaque Grand Prix, ils ont des problèmes différents. Et
là, il a été voilà, dans le paquet un peu deuxième groupe, comme tu disais, Hülkenberg.
Et voilà, il était derrière Hülkenberg pendant toute la course, quoi.
C'est ça, c'est au départ il fait pas un départ, il fait un bon départ, mais il fait pas le départ comme il fait d'habitude. Il se retrouve coincé, il se retrouve à la lutte avec Hülkenberg qui le dépasse, il se retrouve coincé avec Hülkenberg, et derrière c'est très difficile à faire, on l'a vu avec Hamilton notamment derrière, c'est très difficile de dépasser Hülkenberg. Il a lui-même dit, même si le discours d'Alonso doit être nuancé avec le fait que peut-être il aurait préféré qu'il prenne Hülkenberg chez Ferrari plutôt que Raikkonen, mais il a couvert Hülkenberg de louange en disant qu'il avait brillamment conduit, qu'il méritait sa quatrième place et compagnie. Moi, Alonso, j'ai notamment, je l'ai entre guillemets mieux noté que ce que j'aurais voulu le mettre. Je l'ai mis sixième, je pense que je l'aurais mis plus bas sinon. Parce que dans sa lutte avec Hamilton, ça a été des moments assez sympas.
Oui, il y a eu plein de moments.
Là, on a retrouvé deux pilotes qui se battent. C'est toujours dans le virage 4-5-6 là, le petit angle droit là qui est assez sympa et qui souvent est le théâtre de batailles côte à côte, et voilà, il y a eu deux fois où ils se sont battus comme ça et c'était assez sympa. Après, la course d'Alonso est pas brillante et j'ai même pas envie de dire qu'il pâtit de la voiture, parce que certes il pâtit de la voiture, mais on a aussi un peu l'impression que lui il manque un peu de motivation.
Il a pas mal perdu en fait sur, enfin c'est pas vraiment l'accrochage, mais sur l'incident avec Massa, parce qu'il a quand même dû donner un coup de volant pour élargir, pour éviter Massa, et c'est là que Hülkenberg en profite pour passer. Donc s'il y avait pas eu Massa, je suis pas sûr que Hülkenberg serait passé, ce qui aurait pu du coup changer toute sa course. Mais voilà, après même si Hülkenberg était pas passé, je suis pas sûr qu'Alonso aura eu la capacité de suivre le rythme même des Lotus.
Non, il a eu du mal avec ses pneus.
Ouais, enfin, il a beaucoup souffert des pneus ce week-end, c'est vrai que c'était en course avec le graining, il a vraiment beaucoup beaucoup souffert.
Après voilà, c'était vraiment l'avant qui était problématique. On sait qu'Alonso il aime bien une voiture qui est pas vie sur l'avant. C'est peut-être ce qui lui a fait le plus de mal. Voilà. Vivement ça, Suzuka. Faut qu'il finisse au moins 8.
Oui, c'est vrai. On en reparlera après.
Il y a des chances quand même.
À la cinquième place, il a marqué 1428 points. C'est l'autre pilote Mercedes, Lewis Hamilton. Tu l'as mis, Dino, quatrième. Iceman, tu l'as mis cinquième. Et je l'ai mis sixième.
Non, je l'ai mis sixième.
Ah oui, sixième, oui, c'est ça.
Prendre de plus.
C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu.
Ah, c'est vrai, vous avez mis l'autre. Ah, il y a l'autre.
Ouais, moi, je préférais mettre Rosberg devant, justement, parce que Hamilton a, pas su gérer ses pneus. Bon, en tout cas, il a pas, comme tu disais tout à l'heure, il a pas su s'imposer, face à l'équipe quand il aurait dû rentrer. Et, du coup, Rosberg a mieux géré la chose, même si, bon, il a eu son problème avec son aileron. Voilà, je pense que Rosberg, après c'est pareil avec Desi, mais bon, je trouve que Rosberg, je pense qu'il avait la capacité de faire mieux qu'Hamilton ce week-end. Enfin, sur la course en tout cas.
Moi, la raison pour laquelle j'ai mis quatrième, c'est en grande partie lié à la position à laquelle j'ai mis Hülkenberg, parce que je pense vraiment que de l'impression que l'on a de la course d'Hülkenberg dépend aussi le traitement que lui a infligé Hamilton, qui l'a véritablement harcelé tour après tour.
Dès qu'il y avait la ligne droite, voilà. L'Avimax, c'était pas possible, quoi. Et pourtant,
au moins, il a eu le mérite, contrairement à Alonso, qui a tenté une ou deux fois, il y a eu un moment donné, d'ailleurs, au virage 3, où ça a failli passer à l'extérieur pour Alonso, mais ça, voilà, Hamilton a vraiment harcelé Hülkenberg, et c'est ce qui a mis en valeur Hülkenberg, ce qui a fait que Hülkenberg a dû défendre, et ce qui a, contrairement à Monza, où Hülkenberg fait sensiblement la même course, mais où il n'a pas véritablement à se défendre ou à faire quoi que ce soit, là, il y avait Hamilton derrière qui lui mettait une pression et qui a failli le dépasser, puis il l'a redépassé, enfin, voilà, je trouve qu'effectivement, c'est une course qui est pas superbe, mais on a le côté attaquant d'Hamilton qui était très incisif ce week-end et qui était bon, et puis en qualif c'est le seul qui rivalise avec Vettel, donc du coup ça méritait une quatrième place. Et toi Shinji, pourquoi l'as-tu mis sixième?
Comme Iceman Air, déjà par rapport à Rosberg, voilà, c'est surtout que je pense que Rosberg aurait pu faire mieux. Après, sur certains combats, notamment par exemple celui qu'il y a eu contre Grosjean, il l'a perdu. Il y a cette impression, ouais. En effet, alors c'est aussi parce que Hülkenberg était rapide, qui donnait l'impression finalement que Hamilton parfois semblait lent, justement. Mais là, c'est plus une impression relative par rapport à Hülkenberg, comme toi-même tu l'as dit.
Bah, c'est pour ça que moi vraiment j'ai mis Hülkenberg troisième et j'ai mis Hamilton quatrième. Enfin, ça me semblait logique de mettre les deux l'un devant l'autre, enfin l'un à côté de l'autre, parce que voilà, je pense que vraiment Hamilton contribue véritablement à magnifier la course de Hülkenberg.
On passe à la quatrième place.
Ça va m'énerver. Ça.
Il a marqué 2342 points. Voyons voir. Je l'ai mis, entre guillemets, seulement troisième, alors que vous l'avez tous les deux mis deuxième.
Voilà quelqu'un de conséquent et de bien réfléchi. Bravo, Espanel.
Merci.
Voilà.
Les grands esprits se rencontrent.
C'est Romain Grosjean.
Il y en a qui suivent bêtement le classement, il y en a qui analysent la course, voilà.
Mais je n'ai pas mis Raikkonen devant.
Moi non plus.
Iceman Air non plus.
Ah mon dieu.
Suspense.
Tu t'imagines des choses.
Ah, je suis de mauvaise foi avec les fans de Nekomi.
Parlons de Grosjean.
Moi je dis une deuxième, c'est tout un ensemble de choses, je trouve qu'il a vraiment été très... Enfin, limite le week-end presque parfait, on pourrait dire.
Il fait une erreur finalement.
Voilà, à part l'erreur à la sortie du virage 15 là, qui lui coûte la deuxième place.
Deuxième place.
Mais la qualif, ça fait quand même deux bonnes qualifs de suite. Le départ, il prend un très bon départ tout de suite, il s'impose face à Hamilton assez autoritairement quand même. Voilà, il le passe. Ensuite, Hamilton tente de repasser dans l'enchaînement là justement le virage 4, 5, 6 là. Et Grosjean le laisse pas repasser. Après, il y a eu aussi l'acte 2 quand Grosjean ressort des stands.
Oui, ça c'était vraiment très beau à voir.
Voilà, j'ai vraiment pensé qu'Hamilton, je me suis dit bon, c'est bon, il va l'avoir. Et Grosjean a très 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 bien défendu vraiment, surtout dans l'enchaînement où Hamilton était vraiment, enfin il était de tous les côtés quoi, à droite à gauche, et il s'est pas démonté, il a gentiment, calmement attendu que ses pneus chauffent et voilà. Et surtout il a quand même réussi. Alors après bon, je sais pas si Vettel en avait encore sous le pied ou pas, mais il a quand même réussi à pas trop à tenir le rythme.
À certains moments il était dans le rythme. Après voilà, c'est qu'est-ce que
même
Vettel...
si c'était à distance, je pense que Vettel voilà faisait ce qu'il fallait pour le maintenir de toute façon à 3-4 secondes. Mais il a quand même voilà, il s'est pas fait larguer. C'était pas non plus comme la semaine dernière où Vettel a... enfin la deux semaines où Vettel a pris 20 secondes. Donc il a vraiment ouais, j'ai trouvé très convaincant ce week-end. Donc voilà.
Je n'aurais pas mieux dit.
On se disait, ouais, on va être à 3, ça va être intéressant, mais en fait, ils sont 1. Tous les deux, ils sont 1. non, c'est vrai que c'est une course, Grosjean, qui m'a beaucoup rappelé celle de Bahreïn. C'est une course où il est agressif, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Il commet une erreur à la fin, il se retrouve sous la pression de Raikkonen, il fait une erreur parce qu'il veut peut-être bider trop en fer et qu'il a vraiment envie. Je pense aussi qu'il s'est un peu raté sur la relance de Vettel, qui d'ailleurs va peut-être falloir à un moment donné que la FIA intervienne sur les relances derrière safety car de Vettel, parce que je pense qu'il y a un gros problème. On y reviendra, mais je pense qu'il s'est raté, qu'il a voulu un peu trop bien en faire, et que il a vu aussi Raikkonen derrière, et je pense que Raikkonen c'est un peu son objectif en ce moment, donc il s'est loupé, mais c'est vraiment sa seule erreur, c'est vraiment le seul truc qu'on peut lui reprocher, et c'est même pas un reproche que je lui ferai. Il a été effectivement superbe face à Hamilton au départ, dans la sortie des stands où il est vraiment agressif dans le positionnement, il
avec
est franc,
ses pneus froids et tout.
On se rappelle quand même que l'an dernier, le Grand Prix de Corée, pour Grosjean, ça avait été un Grand Prix, pour nous, spectateurs, on avait eu mal au cœur en le regardant, parce qu'on le sentait d'ailleurs dans sa bagarre avec Hülkenberg l'année dernière, on avait senti Pato marchant sur des œufs, qui avait peur, on le sentait serrer les fesses dans son baquet, et là on a senti un Grosjean puissant qui avait peur de rien.
Aucune hésitation.
Et... Moi franchement ça me fait plaisir de voir ça, je pense que ça a fait beaucoup plaisir à Lotus, et c'est aussi ce qui a encouragé Lotus à vouloir aller, quand il s'est retrouvé derrière Raikkonen, à lui dire non, mais va le chercher, tu t'es capable de le faire, quoi. Ils essayent. Je pense que c'est un garçon qui manque un poil de confiance, et que Lotus a essayé, et notamment Bouli en intervenant, et c'est lui dire non, tu vas le chercher. Il n'y a pas de consigne. C'est là où Grosjean d'ailleurs a été très naïf, c'est de croire, parce que visiblement il a demandé des consignes. C'est de croire que on lui donnerait les consignes. On ne demande pas à Kimi Räikkönen, à un champion du monde, sauf à lui tordre l'oreille et lui faisant signer un contrat ou je sais pas quoi. On ne demande pas à Kimi Räikkönen de s'incliner pour se battre pour la deuxième place, quoi. C'est voilà. Et puis la première place, ils ont eux-mêmes dit qu'ils y croyaient pas, que même en laissant passer Grosjean, ils croyaient pas que Grosjean avait des chances d'aller rivaliser avec Vettel. Donc c'était vraiment à lui de faire le match, et il a été un peu naïf en croyant qu'on l'autoriserait. Après, je pense que sous le coup de l'action, il voulait y croire parce que c'est un battant, il est déterminé, il a envie de gagner et voilà. Mais sinon c'est vraiment le seul reproche qu'on peut lui faire sur ce week-end-là.
Ouais, j'ai eu un peu.
Et ce qui est bien, c'est qu'il les enchaîne ces week-ends-là. Ça fait quand même pas mal de grands prix
depuis l'Allemagne, hein, globalement.
Et ça, c'est
j'ai
positif.
Quand même, j'ai eu un peu l'impression de retrouver le Grosjean un peu du début 2012, qui avait peur de rien, qui allait à fond et. Avec les accidents en moins.
Oui.
Mais on peut pas nier que le départ de Kimi Räikkönen a une influence aussi là-dessus.
Oui, sûrement. Hein. Oui.
Je pense que ça le soulage vraiment. Il a plus cette pression, il a plus ce bonhomme à côté de lui qui lui prend la
place.
Il
a plus de pression, mais il faut quand même qu'il s'affirme pour bien montrer que justement Lotus peut compter sur lui.
Bah là, clairement, ce qu'il est en train de faire.
Passons au podium. À la troisième place, 2571 points. C'est très dense, hein, le haut du classement quand même. On a quand même 4 pilotes à plus de 2000 points. Iceman l'a mis troisième. Je l'ai mis quatrième. Dido l'a mis cinquième. C'est Kimi Räikkönen.
Ouais, sincèrement, je l'ai mis cinquième et j'étais même parti pour le mettre sixième, je suis dedans. Non, attends, déjà, c'est pas possible. Parce que, pour le coup, je suis le premier à être critique sur les courses de Räikkönen et de rappeler que souvent il part de loin, il bénéficie de stratégie et compagnie. Là, certes, il bénéficie de la safety car, mais au moment où la safety car arrive, il est quatrième, il va se retrouver troisième grâce à la safety car, donc il gagne une place. Et tout ce que lui fait vraiment gagner la safety car, c'est de la longueur sur ses pneus, parce qu'il s'est arrêté 6 tours avant les autres. Donc voilà.
Après, il avait déjà gagné sur sa course, grâce au déboire de Mercedes.
Ouais. C'est donc ça, c'est ouais. pas, c'est pas, sincèrement, c'est pas sa meilleure course, mais je trouve que c'est la course où moi j'ai le moins de trucs à redire parce que il a pris sa chance sur Grosjean et voilà. Donc je le mets cinquième, je ne le mets que cinquième parce qu'il y en a quatre autres qui ont fait mieux devant pour moi. Voilà, c'est encore une très belle performance de
Raikkonen. Parce que jusqu'alors il était dans ce peloton là, Hülkenberg, Alonso, Raikkonen, et c'est vrai que comme un filou, pouf, ah bah tiens, il est troisième.
Ouais, c'est un peu une habitude en ce moment, hein. Mauvaise qualif entre guillemets, ouais. Il se balade autour de la 7-8ème place et d'un coup, paf, il ressort en 3ème place, on sait pas comment.
Bah, en même temps, quand tu vois les résultats qu'il fait, là, en tout cas sur les deux dernières courses, tu te dis que finalement la place en qualif, elle est pas trop importante. Oui. Il fait 2, il fait 3 et 2. Il peut difficilement faire mieux avec un Vettel qui est toujours devant.
C'est sûr. Après, donc moi je l'ai mis 3ème. J'avoue que j'hésitais pendant un petit moment à le mettre plus haut, je me suis dit que non, quand même, il fallait rester honnête. Et donc voilà, j'ai mis troisième, puisque bon, déjà, il y a Grosjean qui a, pour moi, qui Soukène méritait quand même un plus, et un autre aussi, qu'on verra plus tard. Mais je l'ai mis troisième du coup parce que c'est vrai que comme tu l'as dit Dino, c'est pas une course très flamboyante, mais à la limite je dirais que depuis qu'il est revenu chez Lotus, il a jamais vraiment fait de course vraiment flamboyante. C'est plus devenu justement, comme je disais tout à l'heure, des courses d'attente, de stratégie, où justement ce qui nous avait pas habitué à faire.
Mais ça reste une course de course, voilà, ça.
On dirait
une très bonne course.
On dirait que c'est un baroudeur, hein, au cyclisme, on dirait
que c'est un baroudeur. Maintenant chez lui, c'est que justement il a acquis cette dimension. À la limite avant, il serait peut-être aller plus fort, à taper dans le tas, et ça serait peut-être moins bien fini. Alors que là, voilà, maintenant, il a acquis cette sagesse, entre guillemets, d'attendre le bon moment, d'attendre que ça vienne à lui, parce qu'il sait qu'il a la stratégie qui va jouer en sa faveur. Bon, même si là, le safety car, il pouvait pas le deviner, mais le coup de « je rentre plutôt pour doubler déjà Weber et Alonso », les problèmes des Mercedes aussi qui lui sont favorables, donc là il se retrouve 4. Et ensuite malgré tout quand même le dépassement sur Grosjean que j'ai trouvé quand même très beau
et très intelligent, parce qu'il explique bien qu'il a doublé là parce qu'il savait que en doublant là, comme il y avait le drapeau jaune, Grosjean pourrait pas réutiliser le DRS.
Ça c'est une grosse connerie qu'il dit, parce que le drapeau jaune n'est pas déclenché au moment où il
dit. Après, honnêtement, même s'il y avait pas eu le drapeau jaune derrière, je pense qu'il l'aurait doublé quand même. Mais c'est ça aussi que voilà, c'est dans ces moments-là qu'on retrouve quand même le qui met agressif, voilà, opportuniste, qui saisit tout de suite quand il a une opportunité, bon ça traîne moment. Pas quoi, il y va.
C'est ce que j'ai un peu regretté en fait. J'aurais aimé voir le duel Grosjean-Raikkonen. Mais en fait, à cause du 4-4, on l'a pas eu parce que Raikkonen dépasse Grosjean dans la première zone DRS. C'est ça, faut dire, c'est clair. L'erreur de Grosjean plus le fait que Raikkonen dépasse DRS
juste après la relance.
Ah non, en plus, ouais, c'est après cette virage, je dis une connerie. Et donc après, il y a le virage 1 et le virage 2, et quand il sort du virage 2, on voit Grosjean qui se place derrière, qui aura sans doute la possibilité de tenter quelque chose au bout de la ligne droite, mais il y a le 4-4, et il y a le drapeau jaune, et il y a la voiture de sécurité. Donc ça annule à ce moment-là, toute chance de reprendre l'avantage, et c'est ce que je regrette un peu. J'aurais aimé voir en fait un vrai duel entre eux, parce que je pense que là on avait les éléments pour avoir un vrai duel.
C'est vrai que de toute façon, après les chronos, l'écart était stable à 1 seconde 5, donc ils étaient vraiment dans les mêmes temps. Donc mais voilà, j'ai apprécié le dépassement, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'opportunisme, même Grosjean qui s'est quand même fermement défendu, hein, il a bien traversé la piste sur toute sa largeur, et Raikkonen qui va encore plus loin jusqu'au bout quoi, comme à son habitude.
Et moi, j'ai adoré le petit sourire de Raikkonen. Je restitue la scène. On est avant le podium. On est dans la salle où les pilotes se reposent. Romain Grosjean discute avec Sébastien Vettel en anglais, parce que les deux parlent anglais. Et de l'autre côté, on a assis sur sa chaise, parce qu'il est peut-être un petit peu encore mal au dos.
Oui, je sais pas.
La tête dans une serviette, on a Kimi Raikkonen qui s'essuie le visage. Et là, on a Romain Grosjean qui commence à dire à Sébastien Vettel, oui, je pensais pas que Kimi me dépasserait. Et là, on voit Kimi Raikkonen qui glisse un peu sa serviette, ou c'est son visage qui glisse sur la serviette, je ne sais pas. Et là, il regarde un peu Grosjean avec un petit sourire en coin. Et j'ai trouvé, pour moi, c'est l'une des images de la saison. J'ai adoré ce moment. C'est genre, mais je te croyais, quoi. Genre Jacques Lafitte face à l'équipe de V6, quoi. Tu vois, c'est, mais qu'est-ce que vous croyez?
Je suis moi, tout simplement. Donc, à la deuxième place, il a marqué 2871 points. Je rappelle que le premier a marqué 2881 points. Ça s'est joué à 10 points et je peux même vous dire qu'à une qu'à une minute près, c'est-à-dire qu'à une minute avant, ils étaient à égalité. Donc faut quand même le souligner, c'est une deuxième place qui vaut très largement une première place. Et d'après vous, c'est qui?
Deuxième, moi j'ai que c'est Vettel.
Eh bien non, c'est Hülkenberg. Hülkenberg, que j'ai mis deuxième. Dino, tu l'as mis troisième. Mais c'est vrai qu'Eismaner l'a mis premier.
Ah ouais.
Et là, là, on dit, mais comment se fait-il que ce type n'ait pas un contrat pour l'an prochain? C'est pas possible.
Parce qu'il a déjà fait trois équipes différentes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Moi, franchement, j'avoue, c'est un peu de, on peut dire, un peu de l'anti-Vettel que j'ai fait.
Oui.
Après, voilà, bon,
Ça va, c'est un peu de l'anti-Vettel, t'as mis Vettel de l'autre.
Non, je dirais rien.
Non. Oh la vache, il y avait un massacre, rentrez-moi.
Voilà, en fait, j'avoue que j'ai jamais aimé Vettel. C'est que je peux pas le saquer non plus, mais je l'apprécie pas plus que ça.
C'est vrai,
ouais, mais non.
C'est son pote de badminton.
Ce que j'aime pas, en fait, à la limite, c'est même pas de sa faute, c'est qu'il arrive, il est jeune, il arrive tout de suite dans la meilleure équipe, il gagne tout, et ça m'énerve. Voilà. Non, et puis, j'avoue que je le trouve aussi un peu arrogant, tout ça. Enfin, bon, bref, on est pas là pour que je parle de ce que je pense de Vettel. Mais, du coup, en fait, on retombe un peu, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. On retombe un peu dans la même situation qu'en 2011, où, parce que là, clairement, c'est une répétition de 2011, hein, sur les dernières courses. Où voilà, il gagne tout, il y a aucun suspense et du coup, on est blasé quoi. Et la performance, même s'il faut quand même aller la chercher, en devient entre guillemets banale. Et du coup, j'ai eu envie de récompenser d'autres pilotes qui
Non mais ça on l'a tous fait fin 2011. Hein. Fin 2011, même si on essayait de garder Vettel assez haut, mais généralement on disait voilà, bon, Vettel il a gagné, ça va. On va mettre le deuxième
ça
meilleur
fait,
en premier. Parce...
Voilà, ça fait. Donc voilà, j'ai envie de récompenser les pilotes qui se sont distingués sur cette course, qui ont fait des trucs exceptionnels, enfin mieux que ce qu'ils font d'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai mis Hülkenberg premier, parce que pour moi, à la base j'étais parti pour mettre Vettel premier. Je me suis dit bon, il a gagné, ça me paraît logique de le mettre premier quand même. Et pour moi c'était Hülkenberg qui venait juste tout de suite derrière. Puis je me suis dit après tout Vettel. Ça fait quand même 3-4 fois et sûrement même 2 fois avant dans la saison que je mets premier. Et là, je veux dire à la limite, par rapport à la voiture qu'il a et à son potentiel, c'est excessif de dire que c'est normal de gagner, mais ça nous étonne pas. Alors pour moi, la performance d'Hülkenberg est quand même plus étonnante que la performance de Vettel. Donc c'est pour ça que j'ai mis premier. J'ai trouvé que c'était même encore... Je l'ai mis devant Lotus aussi, du coup, parce que entre guillemets, les Lotus ont quand même des bonnes voitures. On s'attend à ce qu'elles fassent des podiums régulièrement. Voir la Sauber en 4e place, surtout là où elle était en début de saison, c'était clairement pas attendu.
C'est mais vrai c'est que pas depuis, aussi
ils ont bien progressé ces derniers temps.
Et puis, enfin, quand tu connais les réglages et quand tu sais que c'est les mêmes réglages qu'ils avaient à Monza,
oui.
Qui est un circuit qui présente présente un peu les mêmes effets, on sait très bien que quiconque mis sur une grosse vitesse de pente, et là, elle était énorme. Enfin, l'avantage
était énorme. Mais une grosse vitesse de pente. Ferrari et Mercedes, quand même.
C'est aussi un pari qu'ils ont pris. Justement, ils ont fait le choix d'avoir cette grosse vitesse de pente au détriment, sûrement, des secteurs de l'étroit.
Mais c'est là où ça relativise l'effet. Il a entre guillemets qu'une Sauber. Oui, il a qu'une Sauber, mais ce week-end, la Sauber avait le réglage qui convient le mieux au circuit, qui permet effectivement de
mais
dépasser.
Mais du coup, justement, voilà, il a su trouver ce réglage que n'ont pas forcément
fait
les autres.
Ou en tout cas, il a pas forcément su le trouver. Je pense que c'est un réglage d'équipe. C'est un réglage. Sauber travaille avec ses armes. Je pense que c'est surtout que moi, Hülkenberg, je le juge surtout. C'est sur sa défense et sur la manière dont, avec ce réglage-là, qui est un réglage. Enfin, d'ailleurs, ce qui était très étonnant et ce qui pourrait poser certaines questions à Giancarlo Minardi, c'est que cette Sauber qui a une grosse vitesse de pointe avait quand même une motricité relativement extraordinaire, ce qui est pas forcément toujours compatible. Hein. Généralement, c'est une motricité plutôt avec une petite vitesse de pointe et une grosse vitesse de pointe, t'as un peu de mal à réaccélérer. Mais bon, là, en tout cas, il arrivait à très bien accélérer et puis il avait une grosse vitesse de pointe. Donc après, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ces armes-là? Et sous la menace, il a été mais d'une perfection dans ses choix. Il a été propre, il a été net. Après, pour moi, la monoplace, sincèrement, j'ai pas envie de retenir ce truc-là parce que certes, c'est entre guillemets qu'une Sauber, mais la Sauber est de mieux en mieux et avec ce réglage-là, moi, ça m'a pas surpris, surtout quand on voit ce qui
qu'il a fait.
Après,
en
j'ai
Italie,
pas non plus. Il y a aussi justement la défense que j'ai pris en compte dans mon choix. Toute la lutte face à d'abord Alonso, ensuite Hamilton. Le dépassement sur Hamilton que j'ai trouvé aussi, même si à la limite avec la grosse vitesse de pointe qu'il avait, c'est pas si surprenant que ça. Mais voilà, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit une Sauber se faire une McLaren, une Mercedes. Donc j'ai.
Puis surtout, enfin, il le dépasse pas à la fin, il le dépasse au tout début de la ligne droite,
au tout début, plutôt au milieu.
Il se met juste derrière et. Enfin, c'est dans la première partie, c'est pas un dépassement au bout de zone DRS, comme on voit souvent, le mec qui freine au bout de zone DRS, non. C'est vraiment dans la première partie de la zone DRS. Et puis surtout, en image, ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit la Sauber derrière, elle se décale, et on n'a même pas le temps de compter un, qu'elle passe déjà devant la Mercedes. C'est dire vraiment qu'il y avait un avantage de vitesse de pointe qui était extraordinaire, en plus avec le DRS, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec la vitesse de pointe
et
le DRS,
à ce moment-là. C'est pas non plus après la relance de safety car?
Non, c'est un peu plus loin, ça, je crois.
Mais c'est vrai que même Hamilton avec le DRS, ça arrivait pas à le passer non plus. Ça m'a rappelé Hamilton derrière Schumacher à Monza il y a un ou deux ans, je me souviens plus.
Quand je vois le tour partout, Hülkenberg passe Hamilton justement au tour entre les deux parties
entre les deux safety car.
Sous safety car.
Ouais, je suis pas
donc
sûr.
Donc il y avait qu'un tour, donc le DRS il était pas actif.
Donc là il y a pas de DRS.
C'est encore plus prestigieux pour Hülkenberg.
C'est encore plus impressionnant sur parce que quand
après,
tu vois
c'est vrai qu'il sortait très bien des virages aussi, notamment les virages 1 et 2. On a vu une caméra d'embarquer Hamilton où il se fait vraiment mais enfumer à la sortie du virage, quoi. C'était aussi impressionnant. Puis voilà, c'est aussi pour le récompenser quand même un peu aussi globalement de ces deux ou trois dernières courses. Là, ça fait 3-4 Grands Prix qui fait des très bonnes choses.
Et de continuer de se battre alors
après,
qu'il n'est pas payé.
C'est quand même clairement son intérêt.
Voilà, même si c'est dans son intérêt aussi de se battre, mais quand même le mec qui continue de mouiller le maillot pour une équipe à qui il doit rien parce qu'il vient juste d'arriver et qu'il n'a pas payé depuis le début de saison et voilà, à qui il pourrait très bien dire bah moi je m'en fous, je vais signer un contrat ailleurs parce que tout le monde connaît ma valeur et puis voilà, je vais rebondir. Non, il continue quand même de mouiller le maillot par son intérêt mais aussi parce qu'il comprend
non,
son intérêt
et
aussi
l'intérêt de l'équipe. C'est lui qui ramène tous les points pour l'équipe. Hein.
Donc voilà, j'ai. Je pense que c'est un pilote qui peut avoir un brillant avenir en F1, donc s'il est dans les bonnes équipes et avec les bonnes voitures.
Si je me trompe pas, là il est à 31 points, je crois, et il a dû marquer sur les trois derniers Grands Prix quelque chose comme 25 points. Il permet à Sauber aujourd'hui d'être ex aequo avec Toro Rosso, sans doute devant au meilleur résultat, parce que je crois pas que Toro Rosso ait fait une quatrième place cette année.
De toute façon,
il y a peut-être Ricciardo,
ça,
mais je pense qu'il va passer devant. Quatrième place. Et voilà, à ce rythme-là, sincèrement, à ce rythme-là, ça va... Parce que en plus, la Sauber, on l'a vu aussi bien à Singapour, où il n'y a pas besoin de vitesse de pointe, là aussi, elle tournait plutôt pas mal, quoi. Donc, ça peut être bon. Ça va quand même être difficile pour jouer.
Force India a deux fois plus de points.
Ce que j'allais dire, est-ce qu'il pourrait pas aller chercher Force India
Oui, mais... Alors, ils pourraient aller chercher Force India a 31 points de plus, ils ont 62 points Force India. Ils ont 31 points de plus, ils viennent en prendre 25 ou 26 en 3 grands prix. Il en reste 5. Et vu que Force India ils en marquent plus en ce moment, ils ont pas l'air prêts de remarquer avant un certain temps. C'est pas impossible. Après je pense que ça va être très dur parce que on arrive quand même sur des grands prix où là pour le coup la Sauber.
Et puis il reste de moins en moins de grands prix.
Ouais, mais si Gutiérrez qui progresse pas mal en ce moment, s'il se met à marquer quelques petits points lui aussi.
S'il arrive à se maintenir en course puisque là c'est vrai que il avait réussi à être en Q3, Gutiérrez, ça pourrait aider.
Il y a vraiment un truc dans cette Sauber qui s'est déclenché, lié aux pneus mais pas uniquement, et qui fait qu'ils arrivent à avoir un bon équilibre, même avec une grosse vitesse de pointe, à avoir une bonne motricité et un bon équilibre dans les virages, dans les enchaînements rapides. Et il va falloir voir sur les 5 circuits, pour moi, ça va être l'un des trucs à suivre sur la fin de saison.
Surtout s'ils arrivent à être performants, c'est que vraiment là, ils ont fait un gros pas en avant.
Ah oui.
Et c'est ce que disait Hülkenberg, là j'ai lu une interview tout à l'heure, où il disait que c'était 50-50 les pneus et l'amélioration de la voiture. Enfin, selon lui, bon après c'est toujours un peu à nuancer, mais je pense qu'il doit pas être bien loin de la vérité.
Et donc à la première place, 2881 points, encore et toujours Sébastien Vettel, que j'ai mis premier comme Dino, et Iceman l'a mis quatrième. Mais bon, il vous a expliqué pourquoi.
Ouais, voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, j'avais envie de récompenser Hülkenberg et les deux Lotus aussi un peu plus que Vettel aujourd'hui. Non pas qu'il ait mérité la victoire, hein, loin de là. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que les trois autres avaient fait quelque chose d'un peu plus remarquable.
Et moi, je le mets premier un peu par c'est toi toujours le premier, je me dis, voilà, qui aurait pu gagner. Voilà. Bon, automatiquement, le vainqueur vient en premier. Après, il me dit, bon, qui aurait pu gagner d'autre? Et là, c'est encore une course où tu dis, bah, personne, quoi. Voilà, c'est, pas aussi au-dessus du lot qu'à Singapour, mais il était au-dessus du lot, quoi. Enfin, voilà. Et puis, il fait une course, pour le coup, à la Vettel. Et ça remet aussi en relief, la course de Singapour, où on lui avait donné un peu carte blanche, où là, on a Roclin, notamment, qui a dit, à la fin de la course, sur l'antenne de Canal+, il a dit, vous savez, pour lui, c'est pas facile de faire une course, de faire la course qu'on lui demande, c'est-à-dire d'être calme, de surveiller sa voiture, d'être sur un rythme qu'on lui impose, plus qu'un rythme que lui il a, c'est pas facile et il arrive à le faire. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a le plus sexy, mais la grande force de Vettel, c'est de réussir à mettre son ego de côté et d'agir dans l'intérêt de l'équipe et dans son intérêt à lui, d'écouter son ingénieur et de monitorer la voiture et voilà, d'être vraiment dans une complémentarité avec l'équipe. Et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait son succès. Il pense pas à son intérêt, il se dit pas, voilà, j'en ai rien à foutre. Je vais défoncer mes pneus et puis je vais faire ce que j'ai envie. Il va le faire à un moment donné pour rappeler quand même à l'équipe qu'il est capable de le faire, pour nous rappeler à nous qu'il est capable de le faire et pour se rappeler à lui qu'il est capable de le faire. Mais on a vu cette semaine une course, bah, comme on voit régulièrement chez Vettel, c'est il part, il contrôle la course et il a en tête aujourd'hui, en tête c'est la référence, quoi. C'est tout le monde dit c'est facile d'être en tête, non, être en tête et être aussi confortablement en tête parfois que lui, c'est difficile à gérer. Il arrive à très bien le gérer et c'est ce que disait Prost dans Formule 1, c'est une équipe bien rodée et il fait partie du mécanisme qui fait que cette équipe tourne bien, quoi.
Comme d'habitude, il n'y a rien à dire, quoi.
C'est ça, qu'est-ce que tu veux dire,
quoi. Il part premier, il est premier tout le temps, donc voilà.
Aujourd'hui, on a des trucs à dire que quand, c'est ce que je disais à Singapour, est-ce que, bon, bah, voilà, visiblement, ils n'ont pas décidé de lâcher les chevaux, mais aujourd'hui, on ne peut s'extasier devant Vettel que quand il peut exploiter à 100% sa monoplace. Sauf que sa monoplace, on l'oublie, mais sa monoplace, même s'il a la meilleure voiture du plateau, aujourd'hui, sa monoplace, il l'utilise que très rarement à 100%.
Et encore.
Il n'y a que en qualif qu'il l'utilise à 100%, et encore, je pense que c'est pas tout le temps le cas, et il n'y a que dans les 5 premiers tours qu'il l'utilise à 100%. Le reste, il est à 90, 80, parfois peut-être 70% de ce qu'il pourrait faire avec la voiture. On l'a vu à Singapour.
Singapour, c'est des...
Hop, salut les gars. C'est terrible à dire, mais il y aura que quand il va se retrouver dans la difficulté, peut-être l'année prochaine, qu'on pourra reconsidérer Vettel et le juger. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Aujourd'hui, tu trouves, et t'as raison de penser ça. Enfin, tu trouves qu'il a eu pour le moment la vie facile, et c'est vrai qu'il pour le moment il a eu la vie facile. C'est peut-être l'un des quoi, enfin, ils sont pas nombreux les quoi du champion du monde, mais c'est peut-être l'un de ceux qui a eu la vie la plus facile pour le moment. Même Schumacher, on fait souvent la comparaison, mais même Schumacher a davantage galéré pour arriver à quel titre.
Pour moi, c'est le gros qui monte à Vettel, c'est qu'il a jamais vraiment connu la difficulté. Et pour l'instant, ouais, tant qu'il... Voilà, c'est pour ça que je refuse d'être, pour moi en tout cas, que je le mets pas à égalité avec un Alonso, Raikkonen, ou Button ou même Hamilton. Je pense que tous ces mecs-là, ils ont justement, en plus, ils ont tous connu des saisons de galère avec des voitures qui marchaient pas. Ils sont tous passés par... ils sont tous battus dans le milieu du peloton à un moment ou un autre. Et alors, c'est pas de sa faute, hein, Vettel, hein, bien sûr, mais je pense que tant qu'il aura pas connu ça, il lui manquera encore un petit truc pour être vraiment un très très grand champion.
Voilà, je pense que Vettel, il faut soit qu'il soit dans la difficulté, soit qu'il commette des erreurs. Et c'est son problème, c'est qu'il commet pas d'erreurs. Encore, il serait confortable leader et il commettrait des erreurs. On se dirait, il est humain, il est infaillible. Sauf que là, on se dit, il est infaillible. Et voilà, on est face à une sorte de rouleau compresseur et on se dit, voilà, c'est une évidence, quoi. C'est, voilà, là, au Japon, on sait qu'il sera devant, on sait qu'il va sans doute gagner.
Surtout Suzuka, ouais.
Donc voilà, je pense que il faut que soit que lui se plante, soit que l'équipe se plante. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une erreur, un accident.
J'attends impatiemment le jour où il se retrouvera en difficulté, pas par méchanceté, mais pour vraiment voir sa valeur. Et juste pour conclure, je pense aussi, c'est le cas pour moi et je pense pour beaucoup d'observateurs, je pense qu'il gagnera aussi pas mal de galons le jour où il décidera de changer d'équipe.
Ah bah oui.
Pour relever vraiment un défi d'arriver dans un terrain inconnu, parce que là, bon, il a clairement toute l'équipe à sa botte.
Au niveau du classement, eh bien, Vettel est devant avec 246 points devant Alonso 215, Hamilton 176, Raikkonen 167. Au classement des équipes, Red Bull est devant avec 348 points devant Ferrari 335. Un peu plus serré chez nous, hein. Devant Mercedes 285 et Lotus 255. Dans l'autre classement, Vettel est devant, 272 points, devant Alonso 195, Raikkonen 167 et Hamilton 161. Alors, il y a déjà mathématiquement, il n'y a que ces quatre-là. Et en effet, Vettel pourrait théoriquement être titré dès le Grand Prix du Japon, mais alors il faudrait que Alonso ne fasse pas mieux que 9e, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. Je crois.
Donc c'est plus dans les mains d'Alonso que dans les mains de Vettel. Oui.
Mais ça, ça devrait pas.
Oui, voilà, c'est ça. C'est... ça dépend surtout d'Alonso.
Mais ça, en tout cas, ça sent bon pour l'Inde.
Ouais, ouais.
Oui, là, oui.
En jugeant qu'il va sans doute, enfin, surtout vraisemblablement, continuer de creuser l'écart.
Chez les constructeurs, Red Bull est premier avec 402 points, Ferrari 284, Mercedes 283, Lotus 239.
Et est-ce que Red Bull, ils peuvent être titrés au Japon ?
Ils ont 172 points d'avance. Ouais, à la fin du Grand Prix du Japon,
faudrait,
et là ils en ont... Mort, Oh, oui, non, non, oui, non.
En Inde aussi, sûrement.
Ouais, même en Inde, ça risque d'être un peu court.
Enfin, ce sera possible, en tout cas, je pense.
Ouais, mathématiquement, ça risque d'être possible. Maintenant, ça sera peut-être plus à Abu Dhabi, voire peut-être même seulement aux États-Unis, pour des questions d'écart de points. Très bien, on va passer au fait marquant de la course. Et il y a 2 semaines, vous n'aviez pas 3, mais 4 choix.
Ouais, c'est original.
Oui. Bon, en même temps, ils auraient pu se mettre d'accord, Fabugus. Hein.
C'est vrai, faut chier.
Donc, quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Singapour 2013? Vous avez été 114 à voter. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10, hein, comme d'habitude. Est arrivé 4e avec 11 votes. Grosjean ne manque pas d'air, mais pas son moteur.
Donc, ça, ouais, c'était pas Gus Gus.
C'est possible. Vu le style, ouais, c'est un peu technique, ça doit être Gus Gus.
En tout cas, c'est bien pour Rav.
Ouais. 3e, 20 votes, Rosberg y a cru, 2 virages, ça c'était moi.
Ah, ça c'est bien pour Rav.
35 votes, Vettel lâche enfin les chevaux.
Ça par contre, c'était génial.
Oui, mais tu n'as pas fini premier, hein. Parce que...
Mais ouais, mais...
Premier avec 48 votes, la course en do majeur de Raikkonen.
Ah, les auditeurs ont bon goût. Moi le premier.
Non, le coup, c'est toi qui gagne, hein.
Alors, tu préfères avoir gagné ou perdre?
Étant donné le déroulement du week-end, je préfère peut-être avoir perdu. Toute la difficulté va être dans la formulation, du coup. La Corée, le pays des Grands Prix en 4x4.
Voilà, il y a la Hollande, le pays des fromages. La Corée, c'est le pays des Grands Prix en 4x4. Donc, c'est à moi. Et ben, je sais très exactement ce que je vais noter. Hülkenberg, mais qu'attendent les autres équipes pour l'embaucher?
Hein, ça peut faire du score, ça.
C'est vrai, Ferrari pourrait annuler le contrat de Raikkonen.
Il avait un pré-contrat.
Dans un an, ils annuleront celui d'Alonso, c'est toi qui l'as dit.
Oh, j'ai rien dit, moi. J'ai dit 50-50.
Et toi, Dino?
Et moi, qu'est-ce qu'il me reste?
Il s'est passé des trucs, franchement, cette année.
Oui, mais je cherche un truc porteur, je cherche quelque chose...
Un truc pour gagner, ou un truc pour perdre, mais bien.
Ah, un truc, c'est pas con, ça faisait longtemps que j'ai pas choisi un truc pour perdre.
Comme quoi, c'est pas que ma spécialité.
Alors, voilà, je dis, attention, le dernier Grand Prix de Corée, pour l'interrogation.
Ah oui, ah mais c'est pas...
C'est vrai que c'est bien pourri, ça.
Oui, non, mais ça peut...
Ça résume plein de choses.
Oui, non, mais ça peut faire des voix, moi je dis. C'est pas si pourri que ça.
Des voix de la Discord.
Cette semaine, nous vous proposons comme fait marquant du Grand Prix de Corée 2013, soit la Corée, le pays des Grands Prix en 4x4, ou bien Hülkenberg, mais qu'attendent les autres équipes pour l'embaucher, ou bien le dernier Grand Prix de Corée? Point d'interrogation. Alors que c'est sûr, on va juste les retrouver dans 5 mois, 6 mois.
Oui, putain, c'est vrai en plus.
Et oui, parce que autant peut-être qu'ils seront pas là, mais s'ils sont là, on va vite les revoir.
On va faire une overdose.
Non, ça dépend, parce que en plus, ça sera le début de saison. Il va se passer plein de trucs pendant l'année
non, mais,
prochaine.
De rien, petit aparté, moi je trouve que c'est quand même un circuit, mine de rien, qui est pas inintéressant.
Ce qui est dommage, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi.
Ouais, voilà, mais je pense qu'à piloter, ben, ça doit être assez sympa. Bon, mis à part les 3 premières lignes droites, mais...
Oh, ça peut avoir un intérêt quand même.
Ça impose un défi technique.
Oui, non, enfin,
c'est intéressant après pour le départ, mais c'est vrai que ça impose un défi technique. L'inconvénient, c'est un peu l'inconvénient de ce circuit, c'est que concrètement dans la course, on ne voit quasiment que les lignes droites.
C'est ça.
Parce après, que c'est y a que là que l'action se passe.
En termes de pilotage, une ligne droite, ça a jamais été.
Non, voilà.
Non.
C'est une ligne droite, quoi. Et donc, on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et souvenez-vous, nous vous avions posé comme question, enfin c'était pas vraiment une question, puisqu'en fait nous vous demandions de nous citer le maximum de chansons, de musique, avec dans les paroles ou même dans le titre, les termes F1, Formula One, Formule 1. Parce qu'il y en a certains qui ont cité des trucs qui étaient uniquement musicaux, mais qui avaient pour titre Formule 1. Donc c'est quand même des chansons qui font référence à la F1.
Ouais.
Alors, j'ai noté...
La question, c'est qu'il faisait référence ou qu'il contenait le mot Formule 1, Formula 1 ou...
Bah, qu'il contenait, mais celles qui ont été citées, même quand elles n'avaient pas de paroles, parce que c'est des extraits musicaux, avaient pour titre quand même Formule 1.
D'accord.
Oui, oui. Même s'il n'y avait pas de paroles, il y avait quand même dans le titre Formule 1 ou F1.
Mais attends, il n'y a pas de paroles?
Bah oui, parfois il y a des morceaux qui sont uniquement musicaux.
Ah ouais, la techno, la tectonique.
Alors non, ce n'est pas de la techno, parce que, alors étonnamment, alors j'ai récolté à peu près tout ce qui a été cité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 morceaux différents, et peut-être même que si on cherchait encore plus loin, on peut en trouver encore plus, ont été cités, alors le titre Formule 1 de Myriam Joly, qui est en fait un morceau d'accordéon, il y a aussi le morceau de Pavel Roth,
c'est très raccord,
et Iva Ajnova, qui s'appelle Formule 1, et c'est un morceau tchèque. Et alors, si vous voulez un truc tchèque, mais plus vieux, il y a Syncopy 61, je sais pas comment on dit 61 en tchèque, me faites pas chier avec ça surtout, qui a fait un titre aussi qui s'appelle Formule 1, mais c'est un truc tchèque. Ou alors sinon, vous avez Marcel Azola et Jean-Pierre Baraglioli, qui ont fait un morceau musical qui s'appelle Formule 1, et c'est un mélange de saxophone et d'accordéon. Parce que oui, je les ai écoutés les trucs, quand même, pour voir à quoi ça ressemblait, hein. Sinon, peut-être, sans doute plus connu, il y avait la chanson de Christin Willem, Double Jeu, où dès la deuxième ou troisième phrase, il dit, voilà, ou pilote de Formule 1. Il y a aussi Sébastien Patoche.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, étonnamment, dans Sébastien Patoche, beaucoup, ceux qui mettaient les titres, souvent mettaient désolé, ou pardon, ou je m'excuse.
Et quand il pète, il trouve son slip.
Voilà, c'est quand il pète, il trouve son slip.
C'est génial.
Alors, il y a aussi Sandy Mouche avec la chanson Formule 1. Alors, qui ne parle pas. Alors là, c'est une chanson. Alors, ça ne parle pas vraiment de Formule 1, mais c'est très typé chanson française. Hein, et ça parle de chaussures de Formule 1. Sinon, si vous voulez des trucs un peu plus péchus, il y a bien évidemment le groupe Ultra Vomit avec le titre Judas Prost, où ils font des choses pas très bien à Alain Prost dedans. Enfin, c'est un morceau de texte, c'est juste un lyrique. Enfin, et voilà, c'est Ultra Vomit, Judas Prost, et voilà. Sinon, si vous aimez le métal, il y a aussi le groupe Prima Fear qui a fait une chanson qui s'appelle Formula One. Si vous êtes plus rap, il y a Seth Gecko et Sefiu qui ont fait la chanson Patate de Forain. Hein. Et a aussi été cité les Vrigels avec la chanson N'importe Nawak. Alors faut faire gaffe sur YouTube parce qu'en fait, il y a deux versions à la chanson. Il y a la première version où dans le texte, ils parlent bien de Formule 1. On trouve par exemple sur Deezer, sur leur live, parce que c'est une chanson live. Quand on l'écoute, il y a bien Formule 1. Par contre, quand tu vas sur YouTube, il y a une version HD, mais c'est une nouvelle version avec des textes qui ont été changés. Il n'y a plus le texte, il n'y a plus le terme Formule 1. Mais dans la première version, il y avait bien le terme Formule 1. Alors le seul que j'ai refusé, c'est quelqu'un avait cité Joe Satriani, qui est un guitariste, avec un morceau qui s'appelle Formula One. Parce qu'en effet, quand tu Joe Satriani Formula One sur YouTube, tu trouves un morceau. Alors en fait, il y a bien un lien entre Formula One et Joe Satriani. C'est pour le jeu Formula One de Psygnosis en 96. Qui d'ailleurs, au passage pour l'anecdote, est sorti en 96 et avait des voitures de l'année 95. Ce qui me fait sourire quand t'as des gens qui gueulent en disant « Mais c'est pas normal, regardez, fin 2013, il sort au mois d'octobre. » Formula One de Psygnosis, un an
compréhensif,
plus tard. Et donc, il y a deux morceaux de Joe Satriani dans la BO, d'où je pense la réutilisation dans YouTube, mais les deux morceaux ne s'appellent pas Formula One. Et donc, on a eu trois réponses. Et souviens-toi, comme la dernière fois, je vais te dire le nombre de bonnes réponses qui ont été citées. T'avais dit qu'on...
Oui. Juste pour info, est-ce que Alex Manner est dans les candidats?
Non.
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 Mais je...
En fait, j'ai...
Je me rends compte...
J'ai jamais participé, je crois.
Je me rends compte que malheureusement, il y a une question... Ah, merde! Il y a la réponse, je peux le dire tout de suite, celle de Fabio Sdi. En fait, il y a les réponses, mais il n'y a pas de questions.
Ah, c'est ballot.
Donc Fabio se dit, malheureusement, on peut pas te faire gagner le cadeau. Malheureusement, j'ai pas pensé. C'est aussi de ma faute, parce que j'aurais dû te renvoyer un mail. Par contre, tu auras un ticket, parce que tu as quand même cité... En plus, c'est toi qui as cité le plus de chansons.
On n'avait pas dit, justement, que c'est la première fois qu'il participe. Parce que je me rappelle qu'on avait dit durant l'été que il fallait pour avoir un ticket qu'il y ait quand même une question de sélection parce que sinon c'était trop facile.
Attends.
Bon là c'est sa première
partie. Je vais vérifier.
Pas.
Hop.
Ce règlement précise bien qu'il faut il faut impérativement répondre et une question de sélection. Donc du coup.
C'est sa première participation.
Donc ouais, on peut dire que il est voilà. En plus, on l'avait vu sur le live, sur le forum du live, et c'était un pseudo qu'on connaissait pas, donc on peut considérer que on peut faire une exception.
Mais tu auras juste un ticket, tu n'auras pas le cadeau. Voilà.
S'il gagne, il a de la moule.
Ah carrément.
S'il gagne, le casque à l'improse à la fin de l'année.
T'as de la méga moule.
Sincèrement.
Ouais, mais s'il participe après, il aura d'autres tickets.
Donc Fabio se dit voilà, et n'oubliez pas tout ça. Il nous faut une question avec.
Oui. D'ailleurs, Fabio se dit, c'était la première fois, la dernière fois. T'es au courant. La prochaine fois, ta réponse
sera. Ah, c'est con, parce qu'en plus, c'était lui qui en avait cité le plus. 9. Enfin, 10 avec celle sur Joe Satriani, mais j'avais compté 9.
Donc, du coup, ça nous fait plus que 2 bonnes réponses.
La deuxième proposition a trouvé 6 chansons. Et la question est, sur combien de Grands Prix cette saison, les spectateurs peuvent-ils admirer les F1 depuis leur bateau?
Ouais.
Et donc, la deuxième, avec 5 bonnes réponses, au Grand Prix d'Abu Dhabi, Ferrari pourrait devenir le nouveau constructeur détenteur d'un record actuellement détenu par McLaren. Lequel ?
Oh, ça va pas être bien compliqué, ça.
Alors, le problème que j'ai avec la première, c'est que c'est quand même assez subjectif. Donc, j'ai quand même envie de sélectionner celle-là, mais en ajoutant une petite condition, j'invite les gens à être originaux.
Oui.
C'est-à-dire à imaginer un peu, je jugerai un peu l'originalité des réponses plus que l'originalité des questions. Je jugerai un peu, donc faut nous expliquer comment est-ce qu'on peut voir du bateau et voilà. Donc essayer de nous surprendre un peu. Voilà. Parce que ça me semble quand même assez subjectif et je pense que chacun aura des arguments pour dire ouais, mais là on peut voir.
On peut faire comme pour les précédentes questions. C'est-à-dire qu'au lieu de demander tous les grands prix où on peut voir depuis des bateaux, on peut demander citez-nous le maximum de grands prix où l'on peut voir les F1 depuis un bateau.
Voilà, et en justifiant le choix du Grand Prix.
Ça, voilà. Vous pouvez nous sortir des trucs super débiles, si c'est justifié,
voilà.
Ça passera.
J'ai déjà quelques idées de débiles même en tête, donc... Non, voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur celle-là.
Celle-là.
Ouais.
Eh bien, donc la question sur la F1 et les bateaux, on est bien d'accord. Eh bien, c'est notre Belge préféré.
Qu'est-ce qu'il nous veut encore ? Il y a encore une question ?
Donc oui, c'est Adelin. Hein.
Vous vous rendez compte que dans cette émission, on est passé du Belge préféré qui était Ben. En fait, c'est plus lui. C'est le Belge préféré, maintenant c'est Adelin. Ben, c'est l'autre. Voilà, c'est le chroniqueur préféré de Belgique.
C'est notre auditeur préféré de Belgique. Ah non, je peux pas dire ça. On en a d'autres. En tout cas, c'est celui qui remplit le plus mes boîtes mail. Ça, c'est certain.
Et les miennes au passage.
Donc voilà. Donc, pour le Grand Prix du Japon, on vous invite à nous citer le maximum de Grand Prix où l'on peut voir les F1 depuis un bateau. Hein, et à nous donner les raisons.
Et à nous donner les raisons.
Donc, soyez inventifs. Il y a des choix, il y a des possibilités évidentes. Il y en a peut-être qui sont un peu moins évidentes, mais vous allez nous expliquer pourquoi.
Voilà.
Et il y en a des carrément tordus.
Moi, j'en ai une en tête qui est bien tordue.
Alors, on va quand même remercier Quentin qui nous avait posé la question donc sur le record qui pourrait échoir à Ferrari, un record qui piquerait à McLaren au Grand Prix d'Abu Dhabi.
Bah, apparemment, Ice Manner avait une petite idée sur. T'as eu le temps de vérifier cette manière ou pas?
Oui, c'est le nombre de Grands Prix consécutifs dans les points. Ah, qui a été fixé récemment par McLaren, d'ailleurs, je me demande si c'est pas cette année, je crois.
Donc il est à 62, c'est ça? 64, voilà.
64, le record, Ferrari est à 62.
Donc, voilà, s'ils continuent à marquer des points, normalement, à Abu Dhabi, ils seront à 65.
Voilà. On peut présumer, sans trop souligner.
Et donc, Fabio se dit, vu quand même, t'en as cité 9, t'en as même cité plus que les deux autres, on va quand même te filer un ticket, mais surtout, n'oubliez pas, avec vos réponses, de nous envoyer une question. C'est très important.
Donc, rappelons que, donc, à chaque fois, les perdants enfin ceux qui n'ont pas été sélectionnés, gagnent un petit ticket pour un tirage au sort que nous ferons en fin de saison dans cette magnifique ville de Rouen.
Oui, parce que je suis de retour à Rouen, enfin, la civilisation.
Et on fera ça pour vous permettre de gagner une réplique à l'échelle 1 du casque d'Alain Prost qu'il portait en 1993 pour l'obtention de son quatrième et dernier titre, le dernier titre d'un pilote tricolore. Voilà, le fameux
Mais
casque avec le petit Sonic sur le dessus.
Sur le dessus ça, je...
Parce que c'est emblématique.
Oui, voilà. Il adore Sonic.
Mais c'est, c'est pour toi, Shinji. Je vais te ramener vers ton enfance. Et donc, quand même, hein, pour la semaine prochaine,
hein,
c'est pour la semaine prochaine déjà le Grand Prix du Japon.
Adelin gagne le fameux drap de bain McLaren.
Le mec, il est belge, il gagne un drap de bain. Le pauvre.
Et que pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on gagnera?
Ouais. Ah ben alors, après le drap de bain, et là ça aurait pu être utile à Adelin qui vit en Belgique, ça pourrait être utile d'ailleurs à toute personne qui vit un petit peu dans le nord de l'Europe, hein, qui vit dans des contrées froides, nous vous proposons de gagner, parce que c'est un peu, Suzuka c'est un peu devenu le terrain de jeu préféré de Sébastien Vettel, nous vous proposons de gagner le bonnet en laine Red Bull Racing Sébastien Vettel, une pièce absolument magnifique, hein, qu'on a l'impression que le taureau il est pixelisé, voilà, mais sincèrement, pour moi c'est l'un des plus beaux cadeaux de l'année, parce que c'est, vraiment c'est, et voilà, c'est... Il y a le casque jaune de Senna.
Imaginez,
et il y a le bonnet Red Bull de Vettel.
Quoi, ça tombe vraiment nickel, quoi.
Oui, en plus.
On vous rappelle l'adresse pour répondre, c'est concours@savf1.fr. N'oubliez pas, alors ce sera pas la semaine prochaine puisque le Grand Prix du Japon c'est dès ce week-end, mais encore après il y aura un mag a priori, oui non, c'est l'année prochaine qu'on fait 3 week-ends de suite, non.
Donc, oui, et on peut quand même signaler que la semaine prochaine nous ferons, il n'y a pas d'invité, donc nous ferons un live du SAV, il aura lieu donc le mardi à 20h30 sur savf1.fr/live avec un chat et voilà. On vous le rappellera sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on le gravera sur la lune avec un rayon laser. Donc regardez bien la lune parce qu'il y aura écrit attention les gars, ouais. Allez, vous savez.
Et donc pour le mag, comme d'habitude, il y a le répondeur. Vous avez soit le module audio qui est sur le site du SAV qui marche, ne l'oublions pas. Il y a aussi sur le formulaire contact du site, bon, ça marche aussi. Oui. Ou bien directement par mail à répondeur@savf1.fr. D'ailleurs, c'est Quentin qui dans son mail de réponse nous pose une petite question. Alors je sais pas si on pourra y répondre, mais peut-être qu'on y répondra plus tard dans le mag si l'un de nos chroniqueurs a la réponse. Voilà, pour Quentin, hein, il trouve que les rétroviseurs de Lotus semblent être plus gros depuis le Grand Prix de Hongrie. Y a-t-il une explication? Moi, je n'en ai pas, c'est clairement. Hein. Dino, est-ce que toi qui es un peu le spécialiste du Grand Prix de Hongrie...
C'est dommage, c'est pas spécifique. C'est pas non plus le... Oui. C'est vrai que c'est un circuit où tu regardes beaucoup tes arrières.
C'est pour que Grosjean voit mieux avant de se rabattre doublé.
Mais il y a peut-être une question aussi de répartition des masses. Je dis ça, c'est à chaud, voilà, mais il y a peut-être aussi, c'est peut-être un moyen de jouer sur les rétroviseurs pour respecter la répartition des masses. Ils ont fait des changements entre temps, on sait qu'ils avaient changé les suspensions et compagnie, donc peut-être qu'ils ont mis des rétroviseurs un peu plus gros pour respecter la répartition des masses qui aujourd'hui est fixe entre l'avant et l'arrière. Mais c'est qu'une hypothèse.
Ou peut-être, voilà, là c'est des réponses à la volée qu'on te donne. Donc.
Jeu 7 et match, Quentin.
Oui. Si vous souhaitez participer...
Non,
d'accord.
Non, si vous souhaitez participer, la porte de SAV est toujours ouverte. Maintenant, comme on vous l'a déjà expliqué, voilà, pour nous, c'est vraiment plus facile aujourd'hui de faire un live, surtout avec nos plannings professionnels et familiaux. Voilà, donc c'est vrai que, voilà, si vous avez déjà participé à l'émission, sincèrement, voilà, ne postulez pas. Et sinon, voilà, ceux qui ont déjà postulé, on voit ça avec eux déjà directement. Si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir, évidemment, notre porte vous sera ouverte et
profitez-en.
Et voilà.
Et donc, passons justement à ce Grand Prix là qui arrive là du Japon. Quels sont vos pronostics pour le Grand Prix du Japon? Car non, plutôt je veux dire, qui pensez-vous va arriver deuxième au Grand Prix du Japon?
Ben Vettel. Voilà. Et sincèrement, je pense Vettel. Ouais, Hamilton premier.
Alonso.
Deuxième.
Ah, deuxième.
Deuxième.
Ah non. Ah là, okay. Alonso premier, Kimi deuxième. Okay.
Ah, moi Gérard. Ouais, je dirais aussi Alonso, mais deuxième. que bon, voilà,
premier.
Je crois qu'il n'y a pas de miracle.
Surtout en une semaine, oui, en ça plus, va pas oui. changer.
Très bien, on va passer au défi de l'invité.
Donc rappelons le défi de l'invité, hein, qui à la base, c'est, vous allez voir, c'est un défi un peu spécial cette semaine. Hein. À la base, on demande à nos invités de nous dire ce qu'ils vont dépenser avec 40 euros, soit le prix, enfin 7 choses qu'ils pourraient faire avec 40 euros, soit le prix d'un abonnement à Canal+. Sauf qu'il se trouve que Iceman Air, faut bien rajouter le R, sinon on pourrait confondre, Iceman Air actuellement est en Grande-Bretagne. Donc il ne paye pas le même prix que nous, puisqu'il paye en livres d'abord.
En fait, il ne paye même pas du tout, mais bon, faut pas dire.
Et en plus, il n'y a pas Canal+, là-bas, il y a plutôt Sky. Et donc, ce défi, c'est lui-même qui s'est proposé de faire ce défi. Je crois que le défi, c'est de 7 choses à faire pour le prix d'un abonnement à Sky, soit 42 livres 50.
43
livres 50. Ce qui nous fait en euros. Ah, question piège.
Ça fait 51 euros et 55 centimes.
Eh, pas mauvais. Hein. Alors, donc, on va commencer par une première proposition qui, a priori, vous pourrait sembler classique, c'est d'aller boire une bière. Sauf que aller boire une bière en Angleterre, c'est aller boire une bière au pub.
Et là, ça te coûte 50 euros. C'est...
Non, non. Où donc la bière est servie par pinte, donc ce qui doit faire à peu près un demi-litre, je crois. Et où donc une pinte, il vous en coûtera 3 euros pour une bière blanche... 3 livres, c'est les vieilles habitudes.
Quand t'es bourré, 3 livres pour une... arrête.
3 livres pour une bière blonde, 3,50 pour une bière brune. Donc vous testez les deux et vous en êtes déjà à 6,50 livres. Mais bon. C'est quelque chose à essayer. Ensuite, alors moi actuellement, donc je suis à Coventry. Ah. Et un truc simple, quoi.
Ah, c'est
non, mais nous, on est historiens, donc Coventry,
nous,
ça nous...
Nous, on connaît Coventry parce que c'est
Coventry,
inventé.
On pense à des bombardiers et tout, tu comprends.
Mais je me demande si tu n'as pas fait un truc sur la Coventryisation, Chigi.
Peut-être.
Il me semble dans un SAV, tu nous avais parlé de Coventryisation.
Sans doute.
Donc voilà, et donc un truc très sympa que vous pouvez faire, c'est qu'à Coventry, donc pour ceux qui le savent pas, mais je pense que la plupart des gens ne le savent pas, vous avez une vieille, l'ancienne cathédrale, donc qui a été bombardée pendant la guerre, mais il reste encore le clocher de la cathédrale, et vous pouvez monter au sommet de ce clocher, donc qui est le troisième plus grand de toute la Grande-Bretagne. Donc vous avez une vue sympa sur toute la ville et puis les environs, et il vous en coûtera 2,75 livres. Ensuite, à Coventry, vous avez quelque chose de très bien, toujours à Coventry, qui est le musée des transports, qui est en fait beaucoup plus un musée de l'automobile qu'autre chose. Et c'est vraiment super sympa, c'est un petit peu, je sais pas si vous connaissez le musée Schlumpf à Mulhouse, mais c'est un peu la même chose en plus petit. Vous avez une grande, très grande collection de voitures qui va du début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Avec toute une salle qu'on dédiait au Jaguar, puisque c'est à Coventry que Jaguar a son centre d'études. Vous avez des super modèles, donc bien évidemment la Type E, des vieilles XK des années 40-50 jusqu'à la F-Type et à la CX-75, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et la bonne nouvelle surtout, c'est que c'est gratuit.
Ah, c'est cool.
Donc c'est quand même, ouais, franchement, vraiment le détour. Du coup, rapport qualité-prix imbattable. Ensuite, donc comme je vous ai dit, il y a le centre d'études, le siège de Jaguar à Coventry, et vous avez de la chance parce que c'est là-bas que je fais mon stage actuellement, et du coup, je peux vous ramener un petit souvenir. Il y a une boutique à l'intérieur de l'entreprise qui normalement est réservée donc à ceux qui travaillent, une boutique souvenir, donc je pourrais éventuellement vous en ramener un.
Ah,
il y a moyen d'avoir quelques prix, donc on va dire pour 15 livres, vous pouvez obtenir quelque chose. Ensuite, si vous l'avez toujours pas fait, ça pourrait être sympa d'aller voir Rush. Donc ici, si vous y allez le mardi soir, il vous en coûtera 5 livres. Donc moi personnellement, j'ai été le voir, j'ai été plutôt sympa. Enfin, j'ai pas écouté l'émission que vous avez fait sur le film encore, mais
ne l'écoute pas.
Le faire.
On a descendu le film.
Oh, je me doute que vous avez dû critiquer. De toute façon, ça allait faire que ça.
Mais... non, mais c'est vrai.
Globalement, j'ai quand même apprécié. Après, je vous avoue que le problème, c'est que vous le verrez totalement en VO sans sous-titres, et l'accent allemand, l'anglais avec l'accent allemand, je vous garantis que c'était pas toujours de la tarte.
Ouais.
Ensuite, quelque chose de très bien que vous pouvez faire aussi, c'est que ce week-end, à Silverstone, vous avez le British Automobile Racing Club qui fait un meeting où c'est quelques courses de voitures de tourisme et peut-être même de petites monoplaces. C'est 10 livres la journée, donc c'est pas très cher. Vous verrez quand même le mythique circuit de Silverstone. J'ai eu la chance d'y aller il y a 2-3 semaines pour voir le BTCC. Et ça vaut vraiment vraiment le détour. Et enfin, vu que vous êtes pas très loin de Birmingham, qui est une des plus grandes villes d'Angleterre, vous pouvez vous aller faire une petite journée là-bas. Le billet de train, c'est 2,10 livres. Donc l'aller-retour, vous en aurez pour 4,20. Et ça vous permettra de passer une petite journée sympa. Le tout pour un total de 43 livres et 45 centimes. Voilà. Donc avec vos 5 centimes qui vous restent, peut-être que vous pourrez acheter un Malabar, je sais pas.
Voilà. Ah, oh, Malabar. Ah. Bah c'était cette bonne chose à faire. Bon, faut maintenant il suffit juste d'être motivé pour aller en Angleterre. Hein, voilà, c'est la motivation. C'est pour rien que l'Angleterre. Faut être motivé pour y aller. Après il faut qu'on y aille, ça
on
va.
On s'habitue, on s'habitue.
Bah, on arrive à la sympa. Les Français y vont. ça doit être sympa.
On arrive à la fin de l'émission. On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1 c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio. C'est sur... Enfin oui, je crois que c'est encore sur la chaîne Alpha. Faut que je vérifie parce que attends.
Et ils changent régulièrement la grille. Hein. Et on est actuellement, on est programmé sur la chaîne Alpha le lundi à 19h, le mardi à 12h30, le mercredi on n'est pas prévu, le jeudi c'est le matin juste au moment, juste avant d'aller au boulot, au réveil à 6h30, et puis c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Nous sommes aussi sur Facebook, sur Twitter via le hashtag SAVF1. Vous pouvez aussi retrouver des liens avec nos comptes Twitter sur la page d'accueil de SAVF1.fr, tout en bas par contre maintenant.
On va en profiter aussi pour faire un peu de pub à un de nos anciens chroniqueurs qui a rejoint l'équipe du podcast LGP Geek, qui est un podcast assez sympa. Moi j'avoue que je suis pas forcément attiré par les podcasts...
C'est un podcast techno.
Voilà, je suis pas très intéressé par les podcasts techno, j'en ai vraiment...
Il y en a plein,
pour eux, quoi, rien à foutre. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est pas vraiment techno, c'est assez large. Voilà, ils sont trois, dont Steph Quark qui a rejoint l'équipe depuis deux numéros, enfin trois numéros parce que ouais. le dernier il a été fait tout seul par le Papy Geek.
Là par exemple, à part la toute dernière émission, mais celle d'avant et la prochaine, il y a des dossiers sur la domotique. Ouais,
donc il y a des discussions qui sont assez intéressantes sur la vie du quotidien, sur les tarifs, et puis en plus vous avez un intervenant qui est suisse, ce qui permet aussi de voir la différence entre les législations françaises et suisses. Il y a aussi des débats sur les licences globales et compagnie qui sont assez intéressants, même si on n'est pas forcément intéressé par la technique et par les objets techno, ça peut être instructif. Donc voilà, c'est LGP Geek, vous trouverez assez facilement sur Facebook, enfin sur Google.
Ouais.
Facebook envahit le monde. J'aime mon esprit, hein, mon
oh
dieu,
là là.
Allez, prouve que tu existes.
Life hein, sur internet, c'est sûr.
Fin des fins, bien sûr.
.com. Parce que le SAV de la F1, c'est...
Le Ritz de podcast.
Merci Iceman Air de nous avoir accompagnés.
Ben de rien, merci à vous, c'était très sympathique, ça fait un petit moment que c'était pas venu, mais c'est toujours aussi agréable.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour un SAV d'après-course qui sera en live, mais n'oublions pas, on finit comme d'habitude les SAV d'après-course avec les quelques mots de Dino.
Alors, avant de finir, je reviendrai quand même sur un petit événement qui a eu ce week-end et qui concerne un petit peu la Formule 1, puisque c'est l'un des cousins des pilotes qui est engagé en Formule 1, Paul Di Resta. On a assisté malheureusement à un accident assez grave ce week-end lors de la course de Houston d'IndyCar avec Dario Franchitti, qui est le quadruple champion de la série, qui est triple vainqueur, je crois, des 500 miles d'Indianapolis, qui a eu de grosses blessures, mais qui a de multiples fractures. Non, voilà, c'était un peu pour évoquer rapidement le sujet et signaler que voilà, qu'il fallait toujours être vigilant sur la sécurité et qu'il y avait jamais de il fallait jamais ça, là, c'était un combat sans fin et que même si on prend des mesures, il faut continuer. Et donc pour finir sur une note positive quand même, j'ai cherché un proverbe coréen. Les Coréens, ils ont des proverbes douches. Ils ont des proverbes très louches. Et voilà, j'ai pris le moins louche de tous. Et c'est le proverbe suivant. Les haricots dans le riz du voisin ont souvent l'air plus gros. And it's lights out.